Salut Guillaume.
Salut Adrien.
Ça va ?
Ça va et toi ?
On est au... Bah ça va super bien. On est le 2 mars 2022 et on est au Gentleman 1919. C'est un petit bar à cocktail. Tu connaissais ?
Pas du tout.
Mais tu me disais que tu connaissais un autre bar à cocktail.
Oui.
Tu vas derrière une pizzeria.
Sauf que je sais pas où il est, mais oui, c'est ça. Tu rentres dans une pizzeria et à la fin, quand t'arrives, t'es dans un petit bar comme ça, même principe. Pas beaucoup de place, mais une carte de cocktail super.
Et puis un petit endroit secret.
Un petit endroit secret, voilà.
Mais moi, c'est ça qui me gonfle. C'est secret, mais en fait, c'est blindé. Donc, c'est plus vraiment secret.
Plus
et sur
secret
Google Maps, c'est pas secret. J'en parlais justement avec le barman. Je lui dis, le vrai secret, c'est qu'il faut coopter. Il faut un truc, un mot de passe ou je sais pas quoi. Et vraiment, tu t'en sais rien, quoi. Parce que je suis souvent allé dans les bars à côté. Là, en fait, c'est tellement blindé que tu n'as plus aucune intimité. Guillaume, ça a été ta journée ?
Ouais, bah écoute, j'ai travaillé chez un client qui est à 500 mètres d'ici, donc plutôt rapide pour venir. J'ai pu arriver, prendre mon Moscow Mule juste après, c'était parfait.
Chant, mais et en plus, on boit le même cocktail, donc c'est super cool. Merci beaucoup d'être là avec moi. Comme je te disais, ça fait hyper longtemps que j'attends ça, qu'on fasse un truc ensemble. Déjà, pour les gens qui ne te connaissent pas, non, déjà, peut-être on va commencer de nous, on se connaît depuis combien de temps ?
Waouh ! On a commencé ensemble chez Team Handwear.
Moi, je dirais 2011.
Je dirais
2012.
Tout début d'Itelios à l'époque où tu étais venu nous aider parce qu'on.
2012.
On faisait.
Quicksilver.
Ouais, c'est ça, on devait faire. Non, c'était pas Quicksilver, c'est Malto.
Oh, t'as raison.
Smalto le premier.
Mais ça a closé après, je crois. Enfin,
et
le projet s'est fait après.
On est parti sur plus gros, entre guillemets, mais Smalto, ça a été notre première ref à l'époque.
C'était pas Picard. Il n'y avait pas Picard aussi.
Comment
Picard, non, il n'y avait pas un truc Picard.
Picard, c'est arrivé plus tard.
Plus tard, ok. Mais donc, c'est quoi, 2011, 2012
ouais,
un truc
ouais,
comme
non,
ça.
Je suis dans ces zones-là. On s'était formé quelques mois avant à Iéna. Ouais. En Allemagne, dans les anciens locaux de Team Handwear, en face d'Intershop.
Tu balances toutes les doses.
Ouais.
Vienne.
Et quand on avait été se former donc sur la solution, on était ressorti de là avec mon patron à l'époque en se disant ça a l'air cool, il faut qu'on lance un projet, mais pas encore d'opportunité. Et puis petite hésitation de ma part sur on avait fait du développement .NET pendant des années dans ma boîte. On changeait complètement de techno. Est-ce que finalement on n'allait pas se perdre dans un truc propriétaire ou sorti de là, on savait pas trop ce qu'on allait faire, si on allait progresser sur le sujet ou pas.
Alors on va en revenir sur toute cette période. T'es qui, Guillaume ?
Moi je suis Guillaume. Je suis directeur technique dans une boîte qui fait du e-commerce entre autres, mais pas que.
Ouais.
J'ai commencé petit puisque j'ai rejoint une boîte qui s'appelait FRA à l'époque.
C'était ta première expérience ?
C'était ma première expérience pro.
T'as fait une école de commerce, enfin d'ingé,
non ?
École
d'ingé, non. Moi j'ai un BTS informatique.
Ouais.
Gestion. Je suis sorti de là. Fin d'année, j'ai un stage en deuxième année dans une SS2I, enfin dans une startup, pardon, à l'époque, qui se lançait. Et le gars, je le recontacte à l'issue de mon BTS en mode alors ta startup, elle a décollé ou pas ? Il me dit non, mais par contre, la boîte dans laquelle je suis, FRA, on embauche à tour de bras.
Et là, t'avais 18
piges, si
un truc
aller,
comme ça. Non, 19 peut-être. 19-20. T'avais 19-20, un truc comme ça.
Non, j'avais plus que ça parce que c'était en 2000, donc j'avais 21 ans.
Ok. Okay.
Et je venais d'avoir mon diplôme. La France était championne d'Europe
champion
face
monde.
À l'Italie.
Yeah.
Championne d'Europe.
Ah, championne d'Europe.
Avec,
okay.
Avec le but de Trezeguet en finale qui élimine les Italiens qui avaient débouché le champagne un peu trop vite. Et moi, dans l'euphorie du moment, ça c'était fin juin, j'obtiens mon diplôme et je me dis, tiens, bah, ça va être cool. Et si j'allais bosser tout de suite parce que, en fait, j'ai pas envie de faire des études supérieures, j'ai envie d'être tout de suite dans le concret.
Donc là, tu l'as rejoint, tu as combien de temps ?
Je rejoins FRA. Peu de temps après, FRA se fait racheter par Business Interactif.
Oh, baby.
Et donc, voilà.
Yeah.
Donc nous, on était vraiment une start-up technique à l'époque et on était racheté par une web agency.
Et t'as resté longtemps chez BI aussi ?
Bah, qui du coup fait que je n'ai pas trouvé mon équilibre particulier parce que le côté technique était un peu trop faiblard et on avait un vrai côté agence digitale qui était
mais
pas
c'est la super agence de Paris là, où c'est peut-être venu plus tard le 2005 je crois
c'est
c'était.
Après que c'est devenu que ça a été racheté par Publicis et Norrène et que c'est rentré dans un autre mode.
Non mais avant le rachat c'était les top boîtes qui faisaient rêver les superbes agences de Paris.
Oui, ça faisait, 2005, ça faisait rêver. Après, voilà, moi ça, ce qui me faisait rêver à l'époque, j'étais encore jeune dev, c'était de faire du dev et des devs compliqués tant qu'à faire.
Ouais.
Donc j'ai eu une belle ref chez eux où on a fait ADP, Aéroport de Paris, City Commerce déjà, ce qui était mon premier début dans le e-commerce. Et avant ça, chez FRA, on avait déjà fait une plateforme e-commerce assez étrangement pour les betteraviers, la Confédération Générale des Betteraviers Français, la CGB, qui est pas forcément ceux auxquels tu penses en premier quand tu te dis voilà c'est une plateforme e-commerce.
Tu t'en souviens comme ça ?
Et pourtant
c'est
on s'en souvient
projet.
Parce que ça a été vraiment le premier projet puis surtout le décollage en fait.
Il y avait du e-commerce, il y avait de la transaction, il y avait un panier.
Moi j'ai été embauché en fait à l'époque chez Itelios pour enfin même pas chez Itelios, c'était encore FRA donc à ce moment-là pour être développeur sur cette solution. Et on déployait Microsoft Site Server Commerce Edition, donc c'était une brique de Microsoft qui faisait les prémices du e-commerce.
La solution de Microsoft
Commerce Server.
Commerce serveur. Il y a
en l'occurrence,
mais c'était pas
avant
encore
même
commercial.
Ça,
c'est ça,
c'était la version d'avant qui s'appelait Site Server Commerce Edition.
C'est ça, exactement.
Donc Site Server, c'était pour faire des portails e-commerce, enfin des portails, et Commerce Edition, c'était avec la brique commerce en plus.
C'était après, des intranets devenu... ou c'était non, pour faire des sites.
Non, c'était vraiment une brique e-commerce classique, panier, checkout, tout ce qu'il y a derrière. Quoi.
Ça marchait ou pas?
Bah,
en termes business, mais est-ce que techniquement, tu avais réussi à délivrer, c'était, ça faisait le taf ou pas?
Ça faisait le taf parce que à l'époque, on n'avait pas envie de partir de zéro et de tout construire soi-même. Donc, il y avait déjà un petit framework. Par contre, il n'y avait pas le site web. Donc, tu avais juste des objets, un objet panier, un objet checkout, un objet catalogue, un objet produit, etc. Et puis, c'était le e-commerce d'il y a 20 ans.
Et il n'y avait pas de volume.
Enfin, c'était le e-commerce d'il y a 20 ans surtout. Donc, il n'y avait pas encore grand-chose qui existait. Il n'y avait pas de connectique vers des tiers de paiement. Il n'y avait pas de web service pour du social login, etc. etc. Et sur cette brique-là, on a développé donc, le site donc, que je disais pour la Cour de Fédération Générale des Betteraviers. City Commerce qui vendait du service en ligne, service de tracé de parcelles pour les déclarations de parcelles auprès de la réglementation du ministère de l'Agriculture et qui vendait aussi des services, enfin au-delà des services, qui vendait aussi des outils dans une boutique en ligne. Et donc moi j'avais la responsabilité de tout le développement de la partie transactionnelle, donc l'achat des services, des subscriptions en ligne et de différents produits. Donc c'est là-dedans que j'ai débuté.
Et t'as resté combien de temps chez FRA?
FRA, ça a duré de 2000 à 2002, je dirais, parce que je crois que le rachat Business Interactive, c'est 2002.
Business Interactive rachète, là tu vois, ça sort, c'est pas pour what.
Alors, il y a quand même un beau projet que je fais là-bas, c'est Aéroport de Paris, pareil, du transactionnel. L'idée, c'était de vendre sur une plateforme toujours Commerce Server, de vendre des produits que tu achètes en duty free, mais de les vendre à l'avance et de venir les récupérer en ticket collect.
10 ans plus tard, j'ai entendu ce projet encore une fois. Tu peux pas me dire que ça va marcher parce que 10 ans plus tard,
c'est surtout
que
c'était du click. Alors oui, mais c'était du click and collect déjà à l'époque. En fait, tu achetais en ligne et tu venais te servir dans le duty free au moment où tu passais
2012, ils trouvaient le bois, ils voulaient le même projet. Donc, raconte-moi après, ce que tu as fait, parce que c'est pas possible que ça marche.
Non, je pense que ce projet n'a jamais vraiment décollé. Ouais. C'est-à-dire que l'ambition était réelle et voilà, mais le marché n'était pas forcément prêt d'avoir des gens qui se disent je vais acheter en ligne un truc que je vais aller chercher ensuite entre deux vols en transit. Ouais. Et à l'époque, les gens n'étaient juste pas prêts à ça. Ils voulaient regarder, ils voulaient acheter. Et acheter en ligne, c'était déjà un geste exceptionnel. Mais alors, acheter en ligne un truc que tu recevras pas avant d'y être en avion.
T'anticipe pas ces trucs-là. Mais ils sont revenus 10 ans plus tard pour le même projet et ça je sais pas si ça s'est renseigné, je crois pas.
Donc ça a été ma première grosse ref e-commerce au-delà de la CGV, parce que là pour le coup on était vraiment sur un gros projet, puis un acteur quand même assez reconnu. Mais suite à cette mission, quand je suis revenu chez donc Business Interactive, il n'y avait pas énormément de contenu intéressant. J'ai travaillé un peu sur l'Occitane en Provence, City Commerce, et j'ai fait un peu de Airbus, mais là c'était de la gestion de contenu. Et bon, je me suis pas forcément très intéressé à tout ça. J'ai rencontré quelqu'un de très qui a défini une partie de ma carrière professionnelle à ce moment-là. C'est Christophe
le fameux
qui était directeur de projet en remplacement du projet où j'étais, et qui partait de Business Interactive pour monter une structure à côté, et qui m'avait laissé sa carte de visite en partant. Et
puis j'avais travaillé avec lui, en fait. Tu l'as
j'avais travaillé avec lui mais 6 mois en fait.
Ok
entre le moment où il est arrivé, enfin je dis 6 mois, j'ai plus trop les souvenirs en tête, mais c'est à peu près ça. Et entre le moment où il est arrivé, le moment où il est parti, et moi les changement de projet, voilà. Mais on a fité assez vite, et je l'ai recontacté en lui disant écoute, voilà, je veux quitter Business Interactive, est-ce que tu as quelque chose à me proposer?
Il me dit oui.
Il me dit oui mais j'ai pas un rond.
C'est
exactement
vrai.
Et donc du coup j'ai été embauché en société de portage par un beau-frère, enfin son beau-frère qui travaillait dans une autre société et qui m'embauchait pour que je puisse être facturé à Christophe.
Et tu faisais quoi?
Moi, j'avais toujours un salaire à côté.
T'étais dev? Tu faisais quoi?
Et du coup, j'ai été embauché chez Christophe pour faire du dev.
Okay.
Et pour travailler sur le client CGV dont je parlais tout à l'heure, qui était le client que Christophe avait récupéré en partant. Ouais.
Et donc là, ça, c'est l'époque Itelios.
C'est Christophe
Claudel qui a fondé Itelios.
En 2004.
Et c'était quoi juste l'équipe? Ça va intéresser que moi, mais c'était qui là, les tout au début?
Il y avait Stéphane, le collègue historique de Christophe, avec qui j'avais déjà bossé chez FRA, parce que c'était quand même une mouvance très FRA, tous ces gens-là, et qui était lui plutôt sur la partie... on faisait des applications Pocket PC aussi à l'époque. Donc lui, il avait ce domaine-là, et moi, j'étais sur la partie e-commerce. Et puis on avait aussi un stagiaire développeur avec nous qui était brésilien de l'école centrale, qui venait faire un stage en France et qui était développeur sur le sujet, et qui
c'est
plus
lui
tard
qui
est parti faire Itelios au Brésil.
Bon, il s'appelle comment déjà?
Il s'appelait Daniel Wagner.
Daniel, c'est l'histoire est belle, parce qu'il a commencé comme ça, et derrière il a monté le business.
Il a grandi de lui-même et il a fait le business. Il a fait le business.
Ça, c'est Christophe qui, enfin bon, bref,
c'est Christophe qui a lancé tout ça, auto-entrepreneur avec une vision,
qui donnait les outils, qui laissait grandir les gens, etc. Donc ça, c'était beau gosse.
Et donc Itelios grossit, on prend des plus belles refs. et on fait venir aussi pas mal d'anciens de FR1, des Fabrice Parizel, des Olivier Wiman, des d'autres encore.
La Clica.
La Clique.
Le secteur A.
Le secteur
du e-commerce.
Le secteur du e-commerce parisien et plus que parisien, puisqu'on avait des gens comme Olivier qui étaient d'Alsace.
Il
était basé à Mâcon avant, mais après il était en Alsace.
Et après il y a eu Lille, etc.
Et puis après, enfin voilà, il y a eu pas mal de monde là-dessus.
Et attends, parce que là, ça pourrait passer des heures à expliquer toute l'histoire, mais peut-être que pour faire simple, la première phase d'Itelio, c'était la technologie Microsoft.
C'est ça.
Commerce serveur, t'as plein de refs, les Quicksilver, etc. Et puis ensuite arrive, c'est l'histoire de Lena.
En fait, on se dit, en fait, on en a marre de se prendre des tôles.
Ça, c'est 2011,
en appel d'offres. Ouais. Et en fait, la dernière appel d'offres dont je me souviens à ce moment-là, qui nous avait mis dedans, c'était UCPA, où on se dit, on va faire la plateforme du site UCPA. Avec Commerce Server, pardon, donc du coup la brique Microsoft, et puis on va la préparer, machin, etc. Et le problème, en fait, c'est que UCPA, c'est une grosse marque avec du volume. Définir dans Commerce Server, toujours le modèle UCPA et ensuite le faire scaler, le faire tenir, c'était un vrai problème. On était encore à l'époque où on vendait plus de licences et plus d'infrastructures que de projets en termes de chiffres. Donc on avait des volumes de vente qui étaient, on vous vend le projet, il y a tant pour le développement, mais il y a tant d'infrastructures et il y a tant de licences. Et c'est pas gérable, sachant que il fallait se caler pendant les soldes, mais que le reste de l'année t'étais dans un downtime d'activité. Donc,
mais toi, à ce moment-là, t'es toujours dev?
Moi, je suis déjà un peu
dev
plus
senior.
Que dev. Je suis
slash architecte.
Ouais, alors architecte non, parce que le métier n'existait pas encore chez nous.
Avant vente un petit peu. Ouais.
Mais surtout, je venais supporter l'avant-vente sur la vision technique
en fait. Au Itelio, il n'y avait pas de vendeur.
Il n'y avait pas de vendeur en fait. On faisait un peu tout le sujet quoi. Et donc du coup, on finit par se dire, on va vendre UCPA et puis en fait on se fait cartonner parce que on présente une addition qui est monstrueuse pour dire parce que c'était marqué dans le cahier des charges qu'est-ce qui va se passer en termes de soldes, combien de serveurs il faut, il faut monter à 10-15 serveurs, des bases de données redondées machin, ça va pas être possible. Donc Christophe regarde un peu tout ça et voit qu'il y a un modèle qui nous semble plus pertinent de technologie e-commerce dans le cloud direct. Mais à l'époque, le cloud, c'était quand même encore très
tabou. Ça, les gens, ils pourraient pas comprendre en 2010 comment c'était. Quoi.
Ouais,
imaginez envoyer les informations aux clients.
Aujourd'hui, c'est l'impression que c'est
normal.
Ça a toujours été là, mais la réalité, c'est que non, tu avais beaucoup de serveurs. On a travaillé pour Truffaut. On a été installé 15-20 serveurs dans des salles machines. On a dû mettre des serveurs en redondance SQL et tout. Et on passait un temps fou qui n'était pas du temps de projet, mais du temps d'infra, en fait.
Et les clients, ils te demandaient où sont les données. Tu t'en bats les couilles. Mais en fait, ils veulent. Aujourd'hui, on le comprend, mais en fait, ils voulaient. Ils sont les serveurs. Tu as envie de dire, mais tu t'en fiches, mais à l'époque, ils s'en fichent pas. Parce que tout le monde est conditionné, etc. Et ça a pris du temps d'éduquer. Et d'ailleurs, merci Salesforce, parce que c'est grâce au CRM, etc.
Ce qui nous a fait transformer, l'essai là-dessus, c'est que avant, donc Salesforce, ça s'appelait encore Demandware, parce que ça ne veut pas être racheté. Et Demandware, c'était.
Mais sur la partie CRM, ils avaient déjà éduqué le marché.
Ils avaient
déjà
commencé.
En SaaS, etc.
Donc Demandware, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient d'Intershop, à la base. Intershop, c'est des mecs qui disent, en fait, c'est bien ce qu'on fait dans Intershop, mais on a toujours ce problème d'infrastructure. Donc, et si on mettait ça dans le cloud? Et donc, ils ont pris Intershop, ils l'ont mis dans le cloud, ils ont appelé ça Demandware.
Cloud SaaS. Bon, après,
alors, cloud
c'est
SaaS en plus,
après, on peut pinailler là-dessus, mais bon.
Et idée de génie, parce qu'à l'époque, en France, c'était encore nouveau et ça décollait à mort. Et donc, le modèle était vraiment, ne vous souciez plus de vos problèmes d'infrastructure, mettez le budget là où vous en avez besoin sur le développement. Effectivement, nous, on a un coût de licence, mais vous n'aurez plus à vous soucier d'avoir des serveurs qui tiennent la charge quand il y a des problématiques de mise en ligne, de nouvelles collections, de soldes, tout ça. Donc nous, on découvre ça, on se fait former là-bas, et une fois qu'on est formé, on se dit, c'est top, il faut qu'on y aille, avec toujours, comme je le disais, la réserve sur mon cas qui était... J'ai fait pendant des années du .NET. C'est un langage international qui est utilisé partout. Si demain, je fais du Demandware, c'est un langage
JavaScript,
fermé.
JavaScript.
Alors, c'était du JavaScript, mais JavaScript propriétaire.
Ouais, c'est ça.
Et le problème, c'était qu'est-ce qu'on va devenir là-dessus? Bon, j'ai fini par me convaincre et à force de conviction aussi de mes collègues, mais ce qui était plus important, c'était pourtant la techno dans laquelle on le faisait, mais les références qu'on faisait et les beaux projets qu'on arrivait à faire avec. Et le deuxième gros virage Itelios, donc du coup, il a été franchi avec Quicksilver. Parce que là, on s'est tapé une grosse ref pour nous sur Demandware. On l'avait initialement fait sur Commerce Cloud, mais derrière, Quicksilver, belle ref qui arrive. Et un peu plus tard, parce que là, je te dis de la merde, en fait, il faudra que tu fasses ça, vu que Quicksilver, on l'a jamais fait en Demandware.
Non, c'était Commerce.
Non, c'était Lacoste, la grosse ref qui nous a transformé. En fait, Quicksilver, on l'a eu en Commerce Cloud, en Commerce Tools.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je recommence.
Quicksilver,
on l'a fait en Commerce Server.
ils vous ont dit dégage parce que vous étiez pas sur
Dimenware,
voilà, là vous aviez sub et après vous avez dit vas-y c'est bon on va se mettre dessus,
et du coup on s'est mis dessus aussi, et en se mettant dessus c'est là qu'on prend Lacoste plus tard, qui est le deuxième gros virage.
Bon, entre temps il y a eu plein de refs, etc.
Après il y a eu d'autres refs, mais Lacoste était le gros changement de braquet pour nous, parce que un client qui par rapport à la taille qu'on avait était monstrueusement reconnu, visible, etc. Et on fait une opération en deux temps. Un sauvetage commando, ils sortent d'un fournisseur de services qui s'appelait Netrada et qui fait une cessation d'activité.
Yeah.
Et donc du coup, vous avez 6 mois ou 12 mois pour sortir, parce que de toute façon,
après, on prend plus service, machin.
Voilà, la délégation e-commerce.
Ils
veulent sortir de là, ils veulent s'approprier le modèle.
Ouais.
Commerce Cloud, ok. On y va avec eux, mais on essaye de sortir le truc en 6 mois. On y était presque, mais on arrive sur la période de solde. Nous, on voulait ouvrir, le client était un peu moins chaud que nous.
Ouais.
Et donc du coup, ça ouvre pas tout de suite, ça ouvre un peu après. Par contre, on arrive à le sortir dans un temps record.
Par rapport au modèle que vous connaissiez,
ce qu'on aurait dû faire avant
custom,
pour arriver au même résultat.
Exactement.
Et donc derrière tout ça, on arrive à se dire, bon, maintenant que c'est fait, stabilisé, on fait la deuxième version. Et là, la deuxième version, il y a Nuren qui rentre dans l'équation pour faire toute la partie
front,
content, image, etc. Et nous qui restons sur le back-end et le transactionnel, en fait.
Ouais.
Et on fait donc une deuxième belle version qui est une très belle ref. Moi, pour moi, en fait, ce qui me fait grandir, c'est l'étape d'après Lacoste, où après Lacoste, un grand groupe cosmétique international qui nous dit on veut vous confier le rollout sur la zone EMEA d'un core modèle fait avec Salesforce, enfin Commerce Cloud toujours, donc Dimandware encore à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous fournir un architecte et une équipe de dev qui vont nous aider à faire ce rollout? Et là, moi, ça me fait gagner du galon en interne, parce que très belle ref, plus le fait de travailler avec d'autres archis, d'autres environnements, etc. Donc on part dans un modèle où gagnant pour Etelios, gagnant pour moi à titre perso, et je pense gagnant pour cette marque qui faisait une belle affaire de l'expertise qu'on leur apportait. On déroule ça pendant, à mon niveau, ça a duré deux ans et demi, je crois. Et derrière, on commence par être connu dans le e-commerce comme étant l'acteur majeur sur cette technologie-là, Commerce Cloud. Donc du coup...
Dimandware à l'époque.
Dimandware encore. Donc on se dit, vas-y, on va aller chercher encore un peu plus gros.
Et en fait, plus vous creusiez votre expertise et vous aviez des gars, et plus ça fonctionnait. Par rapport à toi, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, comment t'as vécu tout ça. Toi, t'es passé de développeur senior dev, et après, t'es devenu project manager.
Dev senior dev. Alors, j'ai jamais vraiment fait de la gestion de projet, même si dans la dimension d'architecte, il y a une dimension de gestion de projet. Mais
en tout cas, tu gérais les merdes et tu supervisais les devs qui se faisaient former.
c'est un peu résumé, mais c'est un peu ça, ouais. Et surtout, en fait, après ce groupe de cosmétiques, moi, on m'a proposé le poste de CTO chez Etelios.
Donc ça, c'était quelle année?
Eh bien, c'est une bonne question, parce que j'en sais rien.
Genre 2016, je crois, un truc comme ça. On s'en fout.
Je dirais dans ces eaux-là.
Après quelques années, parce qu'en fait, t'étais l'expert, monsieur e-commerce.
En fait, j'étais l'archi qui avait déjà plus d'expérience sur le sujet.
Exactement.
Et on n'avait pas encore de direction technique, et on commençait à s'équiper. Il fallait donner une indus globale à la boîte. Et voilà. Et donc, ce poste m'est proposé, que je prends évidemment avec plaisir, sachant que, pour la petite histoire et l'anecdote, mais le jour de ma nomination officielle pendant un séminaire devant toute la boîte, c'est le séminaire où j'arrive en retard parce que j'avais oublié mon passeport dans un bar la veille et que j'avais absolument besoin de le récupérer, vu que je partais dans cet event Salesforce après le séminaire aux US sans passeport. Donc je me suis fait un peu remarquer, à la fois pour mon changement de fonction, mais aussi pour mon côté pas très organisé là-dessus. Et bref, donc arrive ce changement de fonction, arrive ces nouveaux projets. Et
donc là, tu deviens CTO d'Etelios.
Donc je deviens CTO d'Etelios et donc je participe aussi d'autant plus aux avant-ventes et aux décisions stratégiques sur la partie technique. Et on se met en place pour signer un grand groupe de luxe international, multimarque, multi-pays, qui nous dit on veut lancer un core modèle, cette fois-ci c'est vous qui le faites, et vous le faites et vous le relotez sur l'intégralité du monde pour quatre de nos plus belles marques. Allez, let's go, je fais la phase de design, je suis le lead archi sur le programme, même si après je laisse la place à d'autres archis qui prennent le relais, et je travaille là-dessus, et ça me donne une légitimité encore plus importante sur ce point, et avec un très très beau client qui avait beaucoup d'ambition et qui nous fait faire des rollouts quand même assez impressionnants, parce que pour la petite histoire, quand on sort la première marque, on la sort worldwide d'un coup, donc sur 90 pays d'un coup en une fois, et ce qui était un petit challenge quand même déjà. Puis après on sort la deuxième, pareil, 90 pays, et la troisième et la quatrième, et là maintenant on est lancé dans ils sont lancés dans un rythme où ils ont plus vraiment besoin d'architecture, mais plus de continuité.
Guillaume, tu passes CTO, tu continues à délivrer les projets, vous gagnez de plus en plus de trucs, donc toi, tu as des équipes de plus en plus grosses.
À ce moment-là, on était déjà en train de se faire racheter
par un grand groupe.
Par un grand groupe qui avait besoin, en fait, de rajouter la brique commerce à toute sa galaxie de produits Salesforce.
Commerce innovants, en tout cas nouvelle génération, ouais, parce qu'ils avaient déjà du commerce.
Ça, mais Commerce Realized à l'époque, ou Innovating Commerce, je ne sais plus ce qu'on disait exactement en tagline, mais on était effectivement dans le commerce qui n'est pas juste du commerce, on était déjà dans l'approche omnicanal.
Et chez Utelios, toi, tu avais combien de bonhommes qui travaillaient sur les projets? C'était 80, non?
Au summum de Utelios, on doit atteindre 200-250 personnes, je pense.
250
après,
ingénieurs.
Pas que dev.
Dev,
on était 100-120, je pense.
Ok, donc 100-120, toi, tu pilotais tout ça, tu vérifiais que tout se passait bien dans le livret.
La directive, alors j'avais un CTO adjoint avec moi qui m'aidait là-dessus, qui était un architecte chevronné aussi et avec qui on se répartissait les tâches efficacement et on avait effectivement la responsabilité d'accompagner les projets à être plus robuste, plus solide. Et moi, j'avais une dimension plus d'accompagnement avant-vente, pendant que lui, il avait plus une dimension d'accompagnement éducation interne.
Ouais. Même si tu surveillais tout. En fait, la complexité quand t'es intégrateur, c'est tu vends le bordel, tu l'implémentes, donc il faut faire attention à ce que tu as vendu, parce que sinon, tu vois, ça tombe dessus. Et ensuite, il y a la maintenance, parce qu'en fait, le projet, il s'arrête jamais. C'est ça que les gens, ils comprennent pas. C'est pas un projet, tu lances le site, il est live.
Non.
Il y a le rollout des pays.
On a eu
beaucoup
de clients qu'on a gardé de manière très rapprochée pendant des années, où on a fait ce qu'on appelait leur TMA pendant longtemps.
Oui, mais le projet, il s'arrête jamais. Il y a toujours des trucs à rajouter.
Parce que tu as toujours des innovations, tu rajoutes des nouveaux moyens de paiement, tu rajoutes des nouveaux pays, tu rajoutes des nouveaux. Tu rajoutes un projet d'OMS, tu rajoutes un search, tu rajoutes un CMS, etc.
Il faut toujours avoir des équipes dessus.
Du monde dessus, et puis tant que tu fais bien le job, tu restes en fait.
Il y avait un mythe là, je veux que tu déconstruises un mythe, mais je t'en ai jamais parlé.
Dis-moi.
Il y avait une rumeur, c'est que vous mettiez l'équipe A en avant-vente et après l'équipe B pour la maintenance, parce qu'une fois que c'est live, vas-y, on s'emballe avec.
C'est pas aussi. Il y a du vrai et du faux là-dedans.
10 ans plus tard,
il y a du vrai et du faux. On était très bon, je pense, dans le delivery parce qu'on savait se mettre. Dans le delivery initial, on savait se mettre en 4 pour sortir les trucs. C'était notre expérience Lacoste, vraiment.
Tu mets les Top Gun, les seniors, etc.
C'était même pas qu'une question d'équipe parce qu'il n'y avait pas tant que ça de déplacement. C'est plus le modèle, en fait, l'organisation. Je voudrais pas blâmer les devs là-dessus parce que c'était pas les devs pour moi qui changeaient. C'était plus le modèle. Utelios n'était pas organisé pour gérer de la TMA. On n'était pas organisé pour gérer une TMA efficace avec un suivi de tickets, avec une équipe sizée pour. Effectivement, l'équipe diminuait un peu en taille, mais elle ne changeait pas intrinsèquement. On n'enlevait pas les meilleurs pour les remettre ailleurs.
Bah moi, c'est ça que j'avais. C'était ça le fondement.
Non, c'était pas si vrai que ça.
Les Top Gun, tu les bouges une fois que tu vois.
Non, c'était pas si vrai que ça. Franchement, c'était plus. On ne savait pas organiser une TMA et on s'est posé la question plein de fois. Et quand on a été racheté par ce grand groupe, il y a un autre groupe qui était aux US qui a été racheté à peu près en même temps que nous, qui eux avaient organisé leurs équipes en deux façons de faire, une équipe de build, une équipe de run. Et eux, effectivement, ils faisaient un handover du build vers le run avec une équipe de build Top Gun et des runs plus. Voilà. Et dans les runs, tu avais des développeurs plus juniors qui prenaient des tickets peut-être plus simples, etc. Et ce modèle-là, en fait, qui était vraiment séparé chez eux, il n'était pas chez nous, en fait. Nous, on avait toujours le même modèle. Et en fait, du coup, la vélocité d'une team de build versus la vélocité d'une team de run, c'est pas la même, en fait. Les échanges sont pas les mêmes, les façons de faire sont pas les mêmes. Et nous, on s'est dit, un seul modèle suffira. Et quand on a vu ce modèle double chez cet autre intégrateur, on s'est dit, pourquoi pas? On a essayé. Bon, voilà, on n'a pas trop poussé le truc.
Donc,
on est rentré dans le modèle du grand groupe après.
Vous faites le rachet, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu commences à te positionner sur d'autres.
J'avais demandé dans le cadre de ce rachat, j'avais dit, au-delà du fait que c'était une belle opportunité par rapport aux nouvelles perspectives qui s'ouvraient, j'avais surtout envie de reprendre des fonctions autour de l'avant-vente et du développement, solutionning et autres.
Parce que t'avais une telle grosse équipe que t'étais plus sur les projets, quoi. C'est
en
ça.
En fait,
un peu
alors il y avait beaucoup d'internes et puis surtout après passer un temps, c'est que effectivement, je venais plus donner du conseil technologique sur les différents projets que d'être en delivery sur un projet dédié ou d'être en avant-vente. Les équipes d'avant-vente s'étaient structurées et je venais expliquer les schémas d'architecture, mais je participais peut-être pas assez à la stratégie en amont. Donc j'avais demandé à participer un peu plus à ça. Et du coup, j'étais intégré dans cette nouvelle boîte, dans les équipes de solutioning sur la spécialité e-commerce, où là, j'ai eu l'occasion de travailler avec un autre grand groupe de luxe français, finalement l'autre groupe après le premier, où on a eu plusieurs projets. On a commencé petit avec eux, donc sur des petites maisons, et puis on a pris une plus grosse maison parce qu'à un moment donné, en fait, on a commencé à s'intéresser à « et si on faisait Salesforce toujours comme on le fait, c'est-à-dire Salesforce pour la partie transactionnelle, mais que le front, on le faisait différemment. » Donc, on s'est posé la question, headless, et comment on y allait. On a commencé à travailler des briques en interne, et il se trouve qu'on a un appel d'offres pour un marque cosmétique slash haute couture qui nous dit, de ce grand groupe, qui nous dit, voilà, on a un projet headless, on a un Magento en back-end, on veut l'enlever, on veut mettre Salesforce à la place. Vous travaillez déjà avec nous, vous êtes les meilleurs sur Salesforce en France. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Et nous, on a présenté notre savoir-faire justement de découplage front-back e-commerce transactionnel en service et front en headless. Voilà, mais on n'avait pas de référence opérationnelle encore. Donc, on a effectivement tout fait pour gagner cette ref-là, qui serait notre plus belle ref en termes d'image et surtout plus belle ref opérationnelle e-commerce headless. On a eu du, à côté de ça, en plus la chance d'intégrer, en plus d'intégrer le service transactionnel e-commerce, de mettre en place un produit qui s'appelle Fluent Commerce pour la partie OMS. Donc un projet vraiment d'envergure globale, e-commerce OMS. On ne retouche pas au front parce qu'il était déjà existant, mais on s'interface avec et on gère toute cette transition. Et moi, j'étais à la fois sur l'avant-vente et le leadership de ce programme.
Guillaume, aujourd'hui, tu peux choisir les projets sur lesquels tu travailles. C'était quoi? C'était 22 ans d'expérience en e-commerce?
Ouais, j'ai commencé en 2000 et ouais, ça fait 22 ans.
Ouais, ça fait presque 22 ans. Là, aujourd'hui, tu choisis les projets sur lesquels tu travailles. Tu pilotes toujours les projets chez Itelos, enfin, Fruit Telios, non? T'es sorti de ça?
Non, parce que j'ai jamais vraiment piloté les projets. J'ai plutôt été
supervisé
sur la partie, on va dire, lead architect ou architecte.
Okay.
À l'époque, étaient les plus petits les projets, j'étais l'architecte du projet. Mais dès qu'on a commencé à avoir des projets avec 2-3 architectes, j'ai vite pris un rôle de leadership.
Ouais.
Et donc, c'est plutôt l'équipe qui réalise. Moi, j'étais la vision et le pilotage de cette équipe.
Quand il y avait des merdes, ça remontait quand même
technique.
Et tu devais mettre ton nom et parler avec le client.
J'avais le A sur ce sujet. Ouais.
Aujourd'hui, au sein du grand groupe, tu choisis ce que tu veux et tu t'es construit ton expertise dans le luxe. Donc, tu travailles sur les projets innovants luxe pour faire
dans ce domaine de luxe parce que le choix pour moi est d'opportunité, bien sûr, sur les opportunités qui sont arrivées, mais aussi parce que c'est des clients qui ont de l'ambition et les moyens d'atteindre ces ambitions en se choisissant de construire des plateformes qui, des fois, sont un peu innovantes par rapport à des architectures plus traditionnelles, en fait.
Ça va nous amener sur pas mal de sujets que je veux discuter avec toi. Bah, merci pour cette super intro. En tout cas, ouais, c'est dur de résumer une vie ou en tout cas un parcours là de 20 ans en quelques minutes.
Bah, surtout quand c'est une passion, entre guillemets, en plus, parce que j'en parle avec grand plaisir de ces expériences-là qui m'ont apporté plein de choses dans la vie. Donc oui, c'est super intéressant.
Ouais, justement, avant qu'on parle des sujets, là, de quelques sujets que je voulais discuter, comment est-ce que tu fais ta veille et comment est-ce que tu te formes? Est-ce que tu fais de la veille?
Je ne fais pas une veille active aussi actif qu'elle pourrait probablement l'être. Aujourd'hui, j'ai juste envie de voir un tout petit peu plus loin que ce qu'on vend et ce qu'on réalise. Donc, c'est ce que j'avais expliqué à un pote, François, que tu connais un petit peu. Il y a quelques temps de ça, quand il m'avait posé la même question, je lui disais, je sais qu'aujourd'hui on fait ça, mais j'ai plus envie d'être dans la même situation qu'on a été quand on était sur UCPA ou ce que je racontais tout à l'heure de deal où on s'est mangé un mur qu'on n'a pas vu venir. J'ai envie de savoir ce qu'il va y avoir en prochain mur derrière.
Les tendances, etc.
Et donc du coup...
Et tout est cycle aussi. Donc tu sais très bien ce que tu fais aujourd'hui, ça va être as-been dans quelques années.
Et du coup, ces trucs-là, on a envie toujours de se dire, je vais prendre le projet comme étant un moyen aussi d'innover un nouveau truc, de le tester dans le projet. Donc la veille, elle est faite dans le projet, elle n'est pas faite indépendamment du projet, elle est faite par le projet. Et même si moi aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une vision qui est combinée à la fois de la strat et du projet, c'est toujours important d'être dans le projet pour rester pertinent en fait.
Oui, mais donc ça veut dire que tu es drivé par le client, par les projets. Il te dit je veux faire ci, est-ce que ça t'arrive de te poser sur Google et de taper des mots-clés, de rechercher un petit peu c'est quoi les acteurs, c'est quoi les technos, etc.
Pas tant que ça, parce que
c'est en discutant avec les gens.
Parce que c'est en discutant avec ces gens-là en fait que tu te dis tiens, si je voulais faire ça, comment est-ce que je le ferais? Et donc du coup, voilà. Et après, il y a des usages en fait que tu prends à force de voir ces clients qui font tous des choses différentes et qui ont tous un petit degré d'innovation personnelle que tu peux. C'est pour ça que je me suis spécialisé dans ce domaine-là, mais que tu peux retranscrire et expliquer à d'autres. Tu as le client A qui va te dire moi, je veux faire de l'omnichannel avec du click and collect comme ça. Et le client B qui n'en fait pas et qui se dit
Ouais, mais il attend aussi que toi, tu arrives avec des nouvelles idées, des trucs qu'il n'a pas eu, etc.
On vient proposer et dire tout ça. Et en plus, on vient le dire de manière des fois, ça a l'air juste logique de se dire il faudrait développer cette feature, ce truc-là, machin, etc. Donc, d'un point de vue feature, d'un point de vue fonctionnalité, c'est pas tant là où il y a de l'innovation, parce que l'innovation, tu la regardes, t'as pas besoin de faire une veille particulière pour la voir, c'est juste, tu es sur Internet, tu regardes, tu suis et tu vois ce qui se passe. Aujourd'hui, tu vois que les mecs, ils te parlent de NFT partout, c'est le buzzword, et puis.
De live shopping, de ce genre de trucs,
et
etc.
Donc,
de seconde main,
tu tombes dessus un jour. Tu te dis, c'est quoi ce concept? Tu regardes, boum.
Donc tu le fais, ça.
Et ça, oui.
Quand il te parle d'un truc et tu dis, je suis pas sûr de le maîtriser bien, vas aller sur Google, tu vas regarder, tu vas en parler autour de toi et tout ça.
Et je me forge mes propres convictions par rapport à ce que je lis. qui me permet après de me dire est-ce que c'est pertinent ou pas dans le contexte de ce qu'on
c'est
exécute.
C'est qui la personne? Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui, quand tu as un doute ou je sais pas quoi, tu l'appelles et tu dis vas-y, explique. Enfin, tu vas pas dire explique-moi à la live parce que tu as internet, mais tu avec qui tu discutes. Il y a quelqu'un aujourd'hui?
On avait pas mal de gens chez Telios avec qui on discutait de
genre
ça.
Fabrice, c'était quelqu'un avec qui
ouais.
tu truc.
Ouais,
Fabrice,
ça,
c'est quoi, directeur conseil, un truc comme ça chez Telios?
Alors, était.
C'est ça.
C'est des gens comme ça, c'est des gens avec qui justement on se dit tiens, on a ce sujet-là, parlons-en.
Donc, tu as des personnes dans ton entourage, mais aujourd'hui, tu en as ou pas?
Mais on continue en fait. On entretient toujours ces gens-là, c'est ceux avec qui j'ai démarré au début et on se voit encore et on discute encore.
Et vous parlez e-commerce, vous parlez des trucs qui se passent, etc.
On parle pas que de ça, évidemment, et heureusement. Ouais. Mais aussi des amis et voilà, on n'a pas envie de parler que de ça. Mais on a l'avantage en fait d'être un groupe de gens. Je citais Olivier, Fabrice tout à l'heure, Antonin, d'autres, qui sont des gens avec des. Ou Julien, dont je parlais tout à l'heure, qui était le CTO adjoint, qui sont des. Comment on appelle ça? Des personnes en fait avec des convictions.
Ouais.
Et c'est ça qui est super important en fait dans ce métier, c'est que tout le monde arrive avec son avis. Ouais. Je sais qu'avec Fabrice, on a des accords forts sur headless, pas headless.
Ouais, on va en parler tout à l'heure justement. Mais donc là, demain, t'as un truc qui arrive et tu veux en savoir plus ou tu sais pas ou t'es pas sûr, t'as quelqu'un, tu les appelles, t'en discutes ou c'est pas comme
parle.
Ça
On en parle, on met le sujet sur la table. Alors après, on se connaît assez bien pour tous se charrier les uns les autres et celui qui arrive avec sa question, c'est celui qui va passer pour un con, donc il essaye de pas amener sa question comme ça en mode, hey les potes, vous pouvez m'expliquer ça? Parce que sinon, il se fait charrier. Mais évidemment qu'on échange entre nous. Et puis, comme je te le disais, on a tous nos convictions, donc on se forge nos propres avis qu'on veut confronter entre nous. Mais on a souvent tendance à avoir quand même des avis similaires sur ces sujets-là.
Parce que vous êtes en contact avec les projets, avec les clients. En fait, c'est ça que j'aime bien dans ce que tu as fait. Ça fait 20 piges que tu fais des projets.
Ça fait 22 ans que je fais du projet.
Tu parles avec les clients, tu sais ce qu'ils veulent.
Tu n'es
pas en train de vendre des slides. Tu bosses sur ce qu'ils veulent.
Et je pense que c'est ma force aujourd'hui, c'est d'être pertinent, de vendre des choses réalisables en fait. J'ai vu trop de collègues dans ma boîte actuelle qui est immense être capable de dire des choses qui sont irréalisable parce qu'ils ne se mettent pas à la mesure de ce qu'on doit faire avec nos clients en fait.
Je sens que tu as un avis sur les sales et tout ça. Mais bon, c'est normal.
C'est pas que les sales.
Il y a
des visions d'architectes aussi des fois qui sont trop éloignées du terrain en fait.
Moi j'ai toujours, je ne sais pas si j'ai déjà dit, je vais toujours trouver le boulot, enfin travailler chez les agences hyper difficile quoi. Parce qu'en fait, tu es la victime du trio. T'as le client qui veut quelque chose, t'as l'éditeur qui va lui promettre ce que tu veux, t'as l'agence qui va dire, qui va se faire dire, tu te tais, tu le fais, et donc c'est toi qui bosses le week-end, c'est toi qui bosses pendant les vacances, etc. quoi. Et ça te saoule pas ça? Enfin, tu l'acceptes ou tu te dis?
Ça fait 22 ans que je suis dans le service et j'ai des collègues.
Le client, il est pas dupe. Il sait que l'éditeur, il a à survendre le truc et.
Beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Au tout début, j'ai vu les choses évoluer. Nous-mêmes, intégrateurs, on vendait n'importe quoi au début, en mode on va faire ci et puis ça va vous coûter tant et puis c'était démesuré.
Guillaume, après c'est dur parce que ça fait plus de 20 piges que tu fais ça. Est-ce que le client il comprend ce qu'il fait? Les interlocuteurs que tu as, est-ce qu'ils comprennent l'e-commerce?
Pas tous,
ou franchement ils sont perchés et ils font semblant de comprendre, ou deux, ils te demandent des conseils, ils sont assez intelligents pour se dire c'est quoi, je sais pas, aide-moi.
Alors, ils diront pas, et surtout dans les grands groupes luxe et autres, ils te diront pas directement aide-moi. Encore qu'eux, ils peuvent te le dire, mais ils te le diront pas comme ça. Je pense que certains ont besoin d'accompagnement parce que ils connaissent pas forcément le e-commerce d'un point de vue implémentation. En fait, ils connaissent la notion, mais après, qu'est-ce que ça veut dire en concret? Où est-ce que tu mets? Puis ça s'est énormément diversifié aujourd'hui. Avant, on parlait d'une brique e-commerce qui fait tout. Maintenant, et donc t'as beaucoup de projets qui étaient des projets où c'est des fourre-tout. Maintenant, t'as des projets où au final, t'as un e-commerce, un OMS, un search, un CMS, un front qui est de l'aise par rapport au reste, etc. Donc quand tu fais ça, en fait, ton client, il sait pas où positionner tels éléments. Donc c'est pas tant qu'il connaît pas le e-commerce, c'est plutôt qu'il te dit, tu peux m'aider à savoir où est-ce que je mets telle feature, tel truc. Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là? L'effort, il va aller là-dessus, machin, etc. Et c'est ça, en fait, que tu dois aider chez le client et qui n'est pas toujours facile.
Est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait que l'e-commerce est beaucoup plus compliqué qu'il y a 15 ans?
Ah oui.
Là, je critique gentiment les marques, etc. Mais en fait, c'est tellement complexe qu'en fait, ça s'est complexifié. On veut croire que c'est simplifié, mais non, en fait,
non.
C'est complexifié parce qu'il y a des spécialisations
d'outils.
Voilà, c'est ça.
On a beaucoup
et les attentes des clients, elles sont complètement tarées.
Mais du coup, on a aussi beaucoup de marchés de niche qui se sont créés pour mettre des spécialisations un peu partout. Et aujourd'hui, un site e-commerce, c'est un, un sapin de Noël de tout un tas de features regroupées sous un seul site.
C'est impossible d'avoir quelqu'un qui connaît tout. Ils sont chacun sur-spécialisés, hyper spécialisés. Ils vont te mettre à la montre sur des sujets hyper techniques, hyper précis. Mais en fait, celui qui a la vue globale, un mec comme toi, où il y en a quelques-uns, c'est hyper difficile.
Et c'est parce que c'est des années de grandir où tu peux absorber ces nouvelles technos qui arrivent petit à petit et pas d'un seul coup. Un mec qui arrive aujourd'hui dans le e-commerce, il a une learning curve de démarrage qui est complexe parce qu'il doit prendre 50 000 sujets d'un coup, en fait. Et en plus,
parce que le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se former sur une techno.
Oui,
tu vois,
mais
il va se former sur un outil.
Problème de la techno.
On va lui dire que t'es un expert e-commerce. Non, ta gueule, t'es expert de cette solution.
Ouais,
et puis c'est tout. Quoi.
C'est pas le problème de la techno. Là, je parle vraiment d'un point de vue fonctionnel. Ouais. Tu vas arriver dans le e-commerce et on va te parler en même temps d'un cart, d'une wishlist, de qui se registrer. Ouais. On va te parler de click and collect, de ship to store. On va te parler de search, etc. Et tu vas dire waouh. Et c'est 50 000 notions différentes. Ouais. Et encore plus aujourd'hui, on est dans des architectures où on compose son Lego pour faire son, son e-commerce global à la fin. Et quand on a fait ça, bah on se retrouve à être dépendant de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît tout ? Non, c'est assez rare. Donc du coup, tu vas prendre 3, 4, 5 archis, 6 archis pour
chacun
faire chacun du sujet.
Donc tu vois, ça complexifie. Et puis chaque personne vend sa sauce et vend sa salade, etc.
Qui est chez une grosse boîte là en ce moment. City Commerce qui replateforme de Ibris vers une nouvelle version et il a 5-6 archis, lui il est pas archi et il a 5-6 archis qui se battent en ce moment entre eux parce qu'il y en a un qui a une priorité sur le SEO, un autre sur le SSO et encore un autre sur l'automatisation des pages.
Personne n'a tort, le truc c'est que chacun défend son truc, voilà c'est ça.
Donc c'est compliqué et c'est pour ça que mon expertise aujourd'hui elle est recherchée et des expertises comme la mienne peuvent être recherchées, c'est si tu connais un peu tout. Ouais. Même forcément sans être très deep dive, c'est super valable.
Oui, mais là, t'es humble, mec. Ça fait plus de 20 ans que tu fais ça. Tu connais pas un peu tout. Tu connais bien tous les sujets.
Non, parce qu'il y a des nouveaux sujets qui sont arrivés.
Je peux jamais connaître tout. Là, je suis d'accord avec toi sur un truc. Le mec qui se dit expert e-commerce, ça n'existe pas. C'est tellement compliqué. Plus t'avances, plus tu te rends compte que tu connais rien, tu vois. Et c'est ça qui est ouf, tu vois. Au début de la carte, tu dis je suis le king du ring. Ouais. Et après, tu te rends compte, je suis complètement en arnaque. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a des trucs qui sortent tout le temps. Et
c'est un peu dur de rester à jour. Et en plus, après, il y a un autre truc qu'il faut savoir. Moi, j'ai vu dans le grand groupe dans lequel je suis aujourd'hui, c'est en fait aujourd'hui un projet e-commerce. C'est pas foncièrement par rapport à d'autres projets dans l'industrie militaire, l'aviation, l'énergie, enfin tout ce que tu veux. En termes de taille de projet, c'est petit en fait. On parle de budget à des dizaines de millions d'euros versus d'autres à des centaines de millions d'euros. Et encore, les budgets e-commerce à dizaines de millions d'euros, c'est sur plusieurs années pour des énormes groupes qui ont les reins solides et qui ont des énormes ambitions. Donc du coup, t'as en plus un côté perception du niveau de difficulté associé à ce que ça semble coûter. Mais la réalité, c'est que tu dois associer 25, 30, 40, 50 solutions d'un coup et que tu dois les associer alors que t'es sur un budget, je te dis, de moins de 10 millions d'euros. Quoi.
Là où je suis d'accord avec toi, c'est tu sais, tu mets 10 millions sur la table et tu vas gérer peut-être 10-15% du business de la boîte, ce qui est énorme.
Oui.
Et les 95% ou les 85%, pardon, et ben tu vas mettre mais 10 fois plus, beaucoup plus. Donc en fait, en termes de ratio, mais bon, après, c'est l'histoire du digital,
après, moi,
etc.
Je te parle de la vision intégrateur en interne dans la maison, c'est que les mecs, ils se disent en fait, c'est un petit projet, donc ça doit pas être compliqué. Mais en fait, si, c'est compliqué parce que justement, c'est pas un gros budget en termes de par rapport à d'autres les mastodontes de l'énergie machin, mais c'est stratégique, c'est des clients ultra stratégiques et au-delà d'être des clients ultra stratégiques on parle de vente en ligne qui est directement le PNL du client qui se construit quoi et
tous les trucs là que tu vois arriver là-bas, on parle live shopping, NFT, etc. Pour toi c'est du bruit, c'est bullshit.
Tu parlais, pardon, j'ai pas entendu.
Non, tu sais, NFT, live shopping et tous ces trucs là, toutes ces reconditionnés, enfin seconde main, on peut en parler, tous les sujets qui arrivent et qui partent ou alors qui restent, mais toi tu le vois comment, tu dis c'est de la merde et en fait quand le client va me le demander je me mettrai dessus ou non, vaut mieux que je me positionne parce que le client il va te demander ton avis aussi à un moment donné
et il faut que tu à boire et à manger là-dedans. Le blockchain est-il une bonne technologie aujourd'hui pour supporter des scénarios dans le luxe sur certains types de scénarios? Oui, certainement. C'est pas là où je l'aurais eu, le NFT personnellement, là c'est un avis très perso, mais je l'aurais pas forcément mis là-dessus mon effort. Par contre, aujourd'hui t'as des clients qui vendent des pièces sérigraphiées avec numéro de série ou des certificats d'authenticité et là
pour la traçabilité, etc. Mais là tu réponds en un use case de niche.
Mais en fait si tu regardes aujourd'hui c'est LVMH, Richemont et d'autres qui se sont alliés ensemble pour construire le blockchain du luxe. Et ils ont mis ce mécanisme là en place et ils l'ont mis parce qu'ils en ont
ce use case, je suis d'accord,
besoin, en fait.
Mais sur les autres, sur ce qu'on peut voir, tu vois. Et
après, il y a à boire à manger sur celui-ci, je pense qu'il y a des usages, mais pas toujours les bons. Après, sur d'autres, il y a des trucs où tu le fais parce que le client te le demande, mais
tu vois souvent des clients qui te demandent Star Wars et en fait il est pas du tout mature, il sait pas ce qu'il veut, il veut juste le truc qui brille du moment.
Plus que ça, je dirais, c'est assez rare que le client n'écoute pas quand même. les recommandations que tu vas lui faire pour lui dire ça pas trop d'intérêt, ça va te coûter cher et ça te rapportera pas grand chose. Donc si t'es assez bon pour l'expliquer, généralement ça se fait pas. Par contre, ce que tu peux trouver dans ce genre de scénario, c'est un client qui se dit, en fait, moi j'ai besoin de le faire pas pour vendre, mais parce que je suis dans l'industrie reconnu comme étant celui qui doit être le premier sur ce sujet-là. Et donc tu le fais pas par un intérêt marketing, enfin
pas, tu le fais pas par un intérêt marketing.
Tu le fais par un intérêt marketing. Tu le fais pas pour le ROI que ça te va t'apporter. Et tu le fais certainement pas pour la pertinence que ça aura auprès de tes consommateurs.
C'est quoi le truc en ce moment qui te fait triper, qui t'excite, qui t'intrigue ou tu vois qui t'as envie de
monter
en compétence?
Moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est la mouvance qu'a le e-commerce à se dire justement à reconnaître sa complexité par rapport au nombre de solutions diverses et variées qui existent, qui doivent quand même malgré tout s'intégrer ensemble et qui doivent accepter un marché concurrentiel où tu vas être sur j'ai tous ces briques là ensemble. Un jour, je prends cette brique-là, demain, je prends telle autre, je la remplace par telle autre, etc.
Je comprends pas ta réponse. Parce que ça, c'est depuis toujours, c'est comme ça.
Oui, mais aujourd'hui, ça s'est structuré. Et ça s'est structuré dans quelque chose que tu as déjà entendu, etc. On parle de Mac Alliance, on parle de Composable Commerce. Ça, c'est ce qui me fait triper, moi, parce que justement, je trouve ça.
Au-delà du marketing?
C'est pas que du marketing pour le coup. De mon point de vue à moi, ce n'est pas que du marketing. C'est intéressant dans la mesure où ça va permettre justement de dire, OK, je veux assembler ces solutions ensemble. Si elles parlent le même langage, si elles ont la même façon d'être construites en termes d'architecture, il y a de fortes chances qu'elles parlent bien ensemble quand je les mettrai ensemble. Parce que les deux derniers gros projets que j'ai fait là, dans le luxe aujourd'hui, le dernier que j'ai fait sur 2 ans et celui que je suis en train de commencer en ce moment, on est en phase de design. C'est deux projets où il y a 25-30 solutions à intégrer ensemble. Si tu regardes ça, tu te dis, ils ont plus ou moins choisi presque les mêmes acteurs sur presque les mêmes briques. Mais un coup, ils commencent avec l'une brique, après, ils font une autre brique, etc. Le search, un jour, ils te mettent un Algolia, le jour d'après, ils te mettent un Fred Hopper. Ils veulent te mettre un CMS, on va avoir un Appliance, on va avoir un Core Media, on va avoir un Contentful, et puis ils vont tous partir. Les membres de ce consortium Mac Alliance ont compris que ils pouvaient pas se mettre en opposition tous les uns par rapport aux autres. Ils étaient obligés d'essayer de travailler ensemble pour faire en sorte que dans ces projets qui sont énormes, les coûts que tu as, c'est des coûts d'intégration, en fait. C'est pas des coûts de développement dans des solutions. Donc, du coup, t'as intérêt à faire en sorte que l'intégration, elle se passe bien, parce que sinon, tes projets, ils coûtent une fortune et t'as beau être mieux 10 ans qu'un autre, tu seras pas choisi pour autant parce que c'est trop compliqué à intégrer. Donc, j'aime
après,
bien cette
dimension.
Après, tu vois,
l'inconvénient, c'est que, du coup, t'arrives pas en termes d'éditeur, t'arrives pas à te différencier parce que tu veux, enfin, juste filer la brique.
Ouais.
Tout le monde fait la même chose. Donc, tu dégages le marketing. Ça demande plus de, peut-être, maturité, plus d'argent, plus de gouvernance. Il y a d'autres complexités. Tu sais, c'est pas la réponse à tout.
Mais je pense que chaque, si tu regardes,
t'as parlé du luxe, les mecs ils ont de la blinde, ils peuvent mettre l'argent sur la table,
bien sûr.
C'est pas pour tout le monde, alors qu'aujourd'hui c'est marketé pour tout le monde, c'est le turfu.
Oui, mais si tu regardes ces briques là, elles sont capables d'être justement de savoir, enfin je trouve, de mieux savoir se positionner, de se dire ok, ça c'est un secteur d'activité, l'industrie automobile, où moi je sais y aller avec ma brique commerce. Moi j'ai une brique commerce qui sait plutôt aller sur des marketplaces, donc je vais être dans un autre marché.
Moi l'avantage principal, franchement Guillaume, c'est un truc que j'ai cru, moi je suis tombé dedans il y a plus de 10 ans, c'est l'interopérabilité. Tu vois, j'ai du mal à le dire parce qu'en fait c'est toujours le truc qu'on raconte, c'était du bullshit, et là j'ai l'impression pour la première fois de ma vie je vois un vrai truc qui est interopérable.
Oui, c'est ce que je disais
pour
la première fois,
et donc là pour ce coup là c'est cool parce que tu t'enfermes pas dans des trucs, etc.
Et au-delà de pas t'enfermer, en plus je pense qu'il y a un choix qui est important, c'est de dire aujourd'hui on est vachement friand du bring your own device ou bring your own je sais plus, il y a des tonnes de variations de ça, mais de dire viens avec ce que t'as et utilise ce que t'as dans mon produit. En fait, c'est ce que font ces produits-là. Ils te disent, tu vas pas développer directement dans mon produit, donc je vais pas te loquer complètement. À partir du moment où tu choisis mon produit, je vais pas te loquer complètement dans mon produit. Je vais te donner la possibilité de développer avec ce que tu veux, que ce soit du PHP, du Java, du .NET, etc. Et donc là, on est dans un scénario où on te fournit l'infrastructure, on te fournit tout ce qu'il faut pour que ça communique bien avec le reste, et tu viens avec ta propre techno et tu en es propriétaire de ce truc là parce que tu l'as pas mis dans mon produit, tu l'as mis à côté dans le cloud et t'as interopéré.
Mais non,
avec
mais
moi.
T'es propriétaire de rien. T'es propriétaire du code d'intégration, c'est bidon. T'es propriétaire de rien, mais sors pas la face de tes...
Alors ça reste quand même vachement plus intéressant que de te dire j'ai mis ça dans une solution où le jour où je la change,
Toi, je suis d'accord avec toi.
Si tu développes
mais t'es pas,
une approche,
t'es toujours propriétaire de rien, tu vois, c'est
discutable. Si tu construis une approche dans laquelle tu te dis la glue entre mes différents systèmes, c'est des microservices que j'ai créés dans mon coin et j'ai toujours un microservice de gestion de mes promotions parce que j'en ai besoin et demain je passe d'un outil A à un outil B sur le e-commerce, mais je vais toujours utiliser mon microservice de promotion dans les deux cas. Bah, c'est du reuse quand même vachement plus intéressant.
Moi, là, l'exemple qui est cool, c'est celui, tu m'en as parlé en off, c'est le mec qui fait l'hybride. Là, je suis complètement d'accord, c'est cool. Parce que tu fais, il y a des trucs que tu internalises, d'autres trucs que tu externalises. Si tu externalises tout, vas-y, prends une solution du marché qui fait déjà toutes les briques, parce que de toute façon, tout est dehors.
Ouais, mais il n'y a pas une solution de marché. Enfin, il y en a des gros.
Oui, mais tu me comprends, quoi.
Mais même ces gros-là, qui sont capables de tout faire, ils font tout moyennement.
Ouais.
Et ils font pas forcément tout bien dans ce cas-là. Et aujourd'hui, nos clients, ils nous disent, moi, alors, les clients du luxe, c'est vrai que c'est pas tous les clients et que tous ne sont pas sur les mêmes exigences. Mais les clients du luxe te disent, moi, je veux la meilleure expérience sur tous les secteurs. Je veux être le meilleur sur la recommandation. Je veux être le meilleur sur la mise en avant de mes produits. Je veux être le meilleur sur la configuration 3D. Je veux être le meilleur sur la visualisation. Je veux être le meilleur sur les temps d'exécution, etc. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de dire, non, je prends une brique, elle fait tout et elle est, elle fait tout avec certains trucs bien et d'autres moins bien.
Moi, ma vue là-dessus, hein, c'est un, c'est le sens de l'histoire. J'adore cette expression. Toutes les solutions, elles seront composables, ou appelées ce que tu veux, ou headless, comme tu veux. Mais même headless, c'est déjà trop limitant. Tu vois, c'est composable. Tu peux utiliser les briques que tu veux et tu payes les briques que tu veux d'ailleurs. Deux, il n'y aura que 5% ou 10%, je te donne 10%, j'y crois même pas, je pense que c'est 1%, mais il y aura 10% des marques ou des clients qui seront matures pour utiliser ces trucs-là. Mais la réalité, c'est 90%, ils sont balèques, ils veulent juste avoir le standard, le template, ils veulent utiliser des trucs. C'est bien si l'outil le permet, mais je trouve qu'il y a une disproportion entre le bruit qui est fait et tu vois ce qu'on pense être bien et le vrai truc.
Oui et non, parce que aujourd'hui, en fait, sur le projet...
Prends le mid-market, par exemple.
Mais c'est parce que c'est pas les mêmes marchés, en fait.
Voilà, ouais. Mais toi, t'es luxe, c'est un truc top market, luxe, hyper de niche. Tu regardes, ouvre la porte, regarde par la fenêtre ce qui se passe. Et franchement, les gens, ils s'en foutent.
Mais je suis d'accord, mais c'est pour ça que je te dis que tous n'ont pas les mêmes besoins et que tout le monde peut cohabiter. Tu vas avoir des solutions monolithiques qui font tout, même moyennement, mais qui font tout et qui te fournissent le package et c'est intégré et t'as pas ce problème-là. Et ça va très bien suffire à d'autres, à certains clients. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de clients, encore des clients d'Itelios, qui sont très contents de leur solution.
Mais ce qui est cool, c'est que le monolithique, il va se transformer en monolithique, mais composable, où tu vas pouvoir petit à petit décrocher ce qui n'existait pas. Donc ça, moi, je trouve ça, c'est cool.
Et aujourd'hui, on a écrit un papier avec une collègue à moi en interne chez nous qui décrit justement le road to headless, entre guillemets. Enfin, comment est-ce que tu vas du marché actuel, monolithique pour certains, vers le headless et même après plus loin vers le composable et les microservices. Et il y a différentes étapes. Tu le disais tout à l'heure, il y a différents niveaux de maturité, en fait. Tu as des clients qui ne sont pas prêts à franchir certaines étapes parce qu'ils n'ont pas les budgets, ils n'ont pas l'infrastructure, ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas le besoin de faire. Donc nous, on positionnait dans ce deck qu'on avait fait avec ma collègue, on positionnait le fait de dire tu peux commencer ton étape n'importe où dans la journée vers le composable, tu peux la commencer au monolithe, tu peux la composer directement en headless, peu importe. Par contre, en fait, ce qui va te permettre de franchir les étapes de l'une vers l'autre, c'est ton niveau de maturité, un coup sur l'IT, un coup sur la vision, un coup sur autre chose. Enfin, donc tous les clients ne sont pas au même niveau de maturité et n'ont pas les mêmes besoins. Et c'est pas dénigrant aujourd'hui de dire que certains vont rester sur un monolithe parce qu'ils en sont là de leurs besoins et parce que le monolithe leur convient très bien. Un exemple de client dans la grande distribution, pas dans la grande distribution, mais un exemple de client dans le fashion, on va dire entrée de gamme, qui fait 300 000 commandes par jour pendant les périodes de soldes. Ce client-là, il a besoin d'un truc qui est ultra orienté sur la performance, sur le fait que son architecture elle tienne la route et qu'il va proposer 5, 6, 10, 15 services, mais il sait qu'il sera jamais le meilleur sur, enfin il a pas besoin du meilleur sur le search, il a peut-être pas besoin du meilleur sur le CMS. Son objectif, c'est de vendre un max versus un autre client dans le luxe qui va te dire, moi je m'en fous que la moyenne de mes paniers ça soit 1,5 article par panier, parce que quand je vends un article, je le vends très très cher.
Et puis il y a un truc que t'as pas parlé, et à mon avis c'est tu sous-estimes, c'est juste pour faciliter la discussion, c'est le time to market. Que la réalité, les gens, ils veulent aller vite, et franchement je suis d'accord, je préfère avoir un truc qui fait 30% du taf, 50% du taf, mais je l'ai tout de suite ou dans un mois, plutôt qu'il fasse 90%, mais il faut que j'attende 9 mois,
ça
quoi.
C'est vraiment un truc qu'on rencontre effectivement.
Tu commences dégradé et puis t'améliores.
Oui. Et là, quelle que soit l'industrie.
Toi, t'aimes pas ça. Parce que toi, t'inquiète avec ton background.
Non, ça ne dérange pas, mais non, pas de souci. Non, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la vitesse de rollout, tout le monde veut aller le plus vite possible, etc. Mais certains ne mettent pas les mêmes priorités. Il y a ceux qui disent, je veux rollout un core model, ce sera le même partout, boum. Je décline, je vais super vite, je sors le site en quelques semaines et je fais ça très très vite. Un exemple que je prends souvent quand je parle de ça, c'est quand on a travaillé sur Lacoste et qu'on a dû sortir un site qui était très similaire d'un pays à un autre. On l'a sorti en quelques dizaines de jours de dev parce que c'était un copier-coller.
Ouais, mais ce qui est rien. Que, voilà, ouais,
ouais. Et c'est rien en termes de jours.
Parce qu'après, t'as l'autonomie sur le site.
Et après, t'as des sites qui te disent, mais non, mais moi, en fait, j'ai des marchés tellement différents entre deux sites que je ne peux pas me permettre de sortir aussi vite, ou je suis ralenti par la mise en œuvre de mon infrastructure, la mise en œuvre de mon modèle, machin, qui fait que ça va être long, que je dois vérifier chacune des licences que je prends individuellement par pays parce que je suis sur un tel nombre de produits utilisés qu'à la fin, ça me coûte quand même un petit paquet de pognon en termes de machin. Et donc, ils n'ont pas la même souplesse, même s'ils sont toujours sur un core modèle, à se dire on décline super vite. La marque de cosmétiques dont je te parlais tout à l'heure, qui a déployé en EMEA énormément de sites et énormément de marques différentes. Même si ces marques sont différentes et avec des positionnements différents, ils ont réussi à se dire on s'entend sur un core modèle et on déploie ce core modèle. Et ils ont du coup été très très vite dans le déploiement. Versus d'autres marques qui, eux, sont dans le luxe sur pas un monolithe, un site composable qui met du temps, enfin, headless plutôt que composable, qui met du temps à être déployé parce que en termes d'infrastructure, avant d'ouvrir un nouveau pays, c'est contractualiser toute l'infrastructure cloud que tu dois mettre en place pour ton front custom, c'est préparer ta nouvelle base de données, machin, parce que tu as tout un tas d'opérations, de checklists, de choses à faire quand tu ouvres. Et le rollout ne se fait pas en claquant des doigts, même sur un petit pays et même sur un petit périmètre. Mmh. Et donc, du coup, c'est là où des fois, peut-être, les clients ont du mal à estimer que la vitesse de rollout va dépendre de la solution qu'ils ont choisie et de la complexité du nombre de solutions à mettre en œuvre pour déployer.
Ouais.
Si tu mets plein de solutions en œuvre, tu vas construire un super beau truc et après, quand tu veux le déployer, tu vas quand même mettre du temps à le déployer.
Si tu sais quoi, c'est toujours la même chose, c'est sur la slide, it looks good, mais dans la réalité, est-ce que dans le truc, parce que c'est différentes interfaces, il faut former les personnes, ouais, etc., c'est le gros bordel.
Dans la mission où je suis aujourd'hui, le choix de la rollout stratégie, il est orienté, quand on parle avec les équipes business, il est orienté sur le nombre de personnes qu'il va falloir former au nouvel outil quand on va le sortir, le site. Et c'est un bon choix de dire je vais l'orienter comme ça parce que ça va te coûter plus ou moins de temps et d'énergie et d'argent donc à faire sortir le site dans les bonnes proportions. Par contre, à la fin, la validation finale de ce rollout étant faite par un niveau au-dessus, plutôt côté CDO, lui, il va même pas regarder ça en fait. Il va regarder la rentabilité en fait.
Ouais.
Et il se dit, si j'ouvre en premier les US qui sont mon plus gros marché, eh ben j'ai deux risques. Le risque du côté positif à le faire en premier, c'est ça marche super bien, c'est génial, je fais encore plus de chiffre d'affaires, donc j'accélère encore plus sur un marché qui était déjà un de mes plus gros marchés et tant mieux. Par contre, ça se plante, tu plantes ton plus gros marché.
Et demain, tu sautes. Après, c'est des considérations hyper personnelles.
Donc, dans ces boîtes-là, la rollout stratégie, elle est orientée complètement différemment.
Ouais. Tu commences
dans d'autres boîtes où tu te dis, en fait, je suis à peu près tout le monde pareil et j'essaye de faire une ligne et de faire du copier-coller.
Ouais. Et après, tu n'as pas parlé de tech legacy, tu vois, enfin tout ce qui est l'existant, comment est-ce que tu fais pour gérer l'existant, parce que l'existant, c'est le bordel. Là, on commence de zéro, on truc, mais bon, bien souvent, c'est le gros bordel, parce qu'il faut comprendre d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont et comment déjà la migrer.
Tu parlais tout à l'heure de la professionnalisation nécessaire des archis, des différents sachants dans une plateforme e-commerce. Aujourd'hui, je suis très content de travailler dans mon équipe d'architectes là sur le projet où je suis avec des architectes qui ont une vision enterprise architect qui n'est pas spécialisée e-commerce mais qui permet justement de dire en fait les conséquences du changement du Asis vers le 2B, c'est tout ça, les transitions qu'on va devoir avoir, c'est tout ça, et donc les impacts de décommissionnement, c'est tout ça et tout ça. L'enterprise architecture, c'est un métier global qui n'est pas lié qu'au e-commerce, et on a tendance aujourd'hui à se dire quand on fait un projet e-commerce, on va prendre des architectes solutions et on n'a pas besoin d'un enterprise architecte parce qu'on fait que du e-commerce. Bah non, en fait, on a besoin des enterprise architectes pour se donner cette vision urbanisation et transition entre le modèle Asis et le 2B. Et ça, on ne l'a pas. On l'a pas toujours eu dans les équipes e-commerce jusqu'à présent, et aujourd'hui avec la complexité des projets en termes de transition, justement où on va être en double run avec l'ancien modèle, le nouveau modèle, et dans un rollout qui va prendre un an, deux ans, trois ans à s'exécuter des fois, tu dois penser cohabitation. Et cohabitation, c'est pas juste des architectes qui pensent à la suite, c'est des architectes qui pensent au chemin entre les entre le, faut connaître, le début et la suite.
Il faut connaître la source, d'où ils viennent, faut comprendre. Si je suis un vieux truc ou un truc complètement bordélique, il faut savoir d'où il vient. Guillaume, après 22 ans, t'as sûrement eu des questions, des demandes what the fuck des clients. Moi, je veux savoir les doses, tu vois. Sans citer les noms, est-ce que t'as eu des demandes cheloues ou des trucs irréels ou je sais pas quoi.
Évidemment, les deux. dans les demandes cheloues, une de celles que je garde en tête parce qu'elle m'avait vraiment fait halluciner. Et à l'époque,
c'était quand ?
C'était au tout début d'un client.
Genre 2005, un truc comme ça ?
Non, c'était déjà sur Demandware. Donc,
ah ouais, donc 2015, enfin 2013, un truc comme ça.
2012, oui, je dirais.
Ok, bon, donc ouais.
En fait, à l'époque, j'étais déjà plus ou moins. Alors, on n'avait pas un rôle officiel d'architecte, on va dire, mais on avait nos chefs de projet qui partaient en clientèle, collectaient le besoin, sans ce qu'on appelle aujourd'hui des business analysts qui viennent t'aider à te dire c'est quoi le marché, comment il faut le faire, etc., etc. Et je me souviens d'une collègue qui revient de me voir et qui me dit « Bon, moi, j'ai discuté avec le client et donc il faudra développer la feature suivante, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me l'estimer ?» Je dis « Vas-y, c'est quoi la feature ?» Et elle me dit « Il faut construire une page web où on peut voir tous les produits d'un seul coup, tous chargés direct. » Je dis « Mais ça n'a aucun sens, en fait. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça ?» Elle dit « Ouais, mais parce que c'est plus simple, blablabla. » Et en fait, à ce moment-là,
j'ai... Mais en temps de dev, c'est 5 secondes et demie.
Alors... Oui, en termes de perf pour la plateforme, je vais écrouler le serveur,
voilà, ça, oui. Etc.
En tant que dev, c'est pas si compliqué que ça de faire effectivement un select et tout, la façon de parler.
Mais c'est quoi la raison business?
Mais surtout, c'est ça qu'en fait j'essayais de comprendre. Et surtout, je dis à ma collègue, mais en fait, à aucun moment tu t'es dit, c'est pas une bonne idée, toi. Et donc, tu dois peut-être orienter le client pour lui dire que. Ouais. Et elle me dit, j'ai pas la connaissance technique pour. Et effectivement, je peux pas la blâmer parce que.
Mais là, c'est pas technique, c'est business.
Oui, après. Oui. Si tu veux, tu vas savoir que ça va tuer le serveur. Bon,
et puis tu sais, quand t'as un client en face de toi qui te demande un truc, tu vas pas lui dire ta gueule, c'est pas ce que tu racontes, c'est n'importe quoi.
Et donc, du coup, c'est là que j'ai été voir mon patron, Christophe, de l'époque, où je lui dis, écoute, Christophe, je pense qu'on a un problème dans la façon dont on mène les ateliers avec le client et la collecte de besoins. C'est que si on n'envoie que des gens qui ne connaissent pas le métier du e-commerce, à la fois sur le métier fonctionnel, mais aussi sur les implications techniques, on va dans le mur parce que des fois, on va prendre des besoins, on va dire ok, pas de problème, on va les chiffrer, on va les réaliser, et à la fin le client va se rendre compte qu'en fait ça n'a aucun sens ce qu'on a fait. Il va nous demander mais pourquoi vous me l'avez pas dit avant que je dépensais mon argent pour rien. Donc je lui ai dit écoute voilà, moi j'aimerais prendre ce rôle-là d'être architecte avec le client pour écouter ce qu'il dit et lui dire voilà etc. Et donc du coup c'est là qu'on a commencé à avoir des architectes
et inversement
des
arriver avec des bonnes idées parce qu'il y a des trucs qui sont standards en fait. Et tu dis mec tu devrais faire ça c'est standard ah ouais c'est pas con.
En fait un client si tu lui dis enfin il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut jamais dire non à un client. Et en fait, il faut pouvoir dire non. Mais par contre, il faut proposer des solutions.
Attends, avant que tu continues, ouais. Guillaume, moi, j'ai un PM avec Product Manager avec qui j'ai bossé. Il disait, la règle d'or que j'ai, donc c'est sa quote, son truc et tout ça. À chaque fois qu'un client dit quelque chose, je lui dis non. Tu vois, ça, c'était le truc. Bon, là, il était un peu trash. Et moi, ce que je dis toujours à mes équipes, c'est soit le client, il te drive, soit c'est toi qui te drive le client, soit c'est le marché qui le drive, soit c'est la compétition. Donc en fait, vaut mieux être force de proposition, lui dire oui, non et le cadrer.
C'est ce que j'allais dire. Vas-y. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que il faut pas dire non pour le principe de dire non, ou il faut pas dire oui pour le principe de dire oui. Il faut comprendre et surtout, il faut éduquer quand le client ne sait pas. Et en fait, quand le client te dit je voudrais faire ça, si tu veux lui dire non, tu lui dis non, mais tu devrais plutôt faire ça. Ou des fois, il y a des choses où c'est le client te dit, surtout quand tu as une solution SaaS comme Salesforce,
qui te dit qu'il fait
bouge
tout
pas mal, machin, etc. Ouais. Le client, il se dit je voudrais faire ça. Et en fait, toi, tu vas lui dire alors, en fait, si tu rognes. Juste 10% du fonctionnel de ce que tu demandes, tu n'as même pas besoin de demander à le développer, tu l'as déjà dans la solution. Est-ce que tu es prêt à renier ces 10% pour ça te coûte zéro? Ou est-ce que tu veux vraiment qu'on le fasse? Et donc, du coup, les 10% qui te manquent, ils vont te coûter 50, 100 jours de dev pour le faire.
Guillaume, c'est l'histoire de ma life, ça, de chez les 8 ans chez Demandware. Tu lui expliques, mec, j'ai 95% de ce que tu demandes, les 5%, ils vont te coûter tellement d'efforts. Et mais les clients ne sont pas matures, têtu,
et
machin,
et c'est pour ça que je pense. Alors là, il y a une position qui était biaisée pour toi. Parce que quand tu es l'éditeur, tu es super mal placé pour dire ça. Mais l'intégrateur, justement, il doit avoir ce rôle de conseil de dire que, et sur le projet où j'étais juste avant, on avait convenu avec le client qu'on essaierait de respecter un ratio 80-20.
Après, Guillaume, t'es d'accord avec moi, le client, il est casse-couille. Enfin, j'ai généralisé. Mais bien souvent, quand tu lui dis ça, il va dire, c'est le truc le plus important. Et maintenant, il va t'expliquer que les 5% qu'on fait pas, c'est deal breaker, c'est le truc qui est le plus important. Et là, t'as envie de lui mettre du
mais c'est pour ça qu'il y a des procédures d'escalade aussi. C'est-à-dire que, il y a des gens qui te disent ça, c'est les teams avec qui tu travailles au quotidien. Et puis après, tu fais des circo-projets. Et tu remontes qu'il y a une inflation du budget de temps parce que telle personne a demandé temps. Et là, t'as un mec rationnel au-dessus qui voit combien ça coûte et qui voit combien ça coûte par rapport à ce que ça rapportera. Donc, il calcule le ROI et qui dit, en fait, ça, ok, on arrête. Alors après, t'as des directions qui sont capables de prendre ces décisions et t'as des directions qui ne le font pas. Celles qui le font, c'est celles avec qui ça va bien se passer. Parce que justement, elles ont compris que leurs équipes vont demander la liste au Père Noël, comme on a tendance à le dire, et que la réalité, c'est qu'elles n'ont pas besoin de ça pour faire leur plateforme.
Est-ce que t'as déjà un client qui t'a demandé un truc qui est complètement irréaliste? Tu vois, un truc what the fuck et genre techniquement, c'est juste impossible.
Ouais, on a eu des fois des demandes. Alors, j'en ai pas forcément en tête là parce que j'ai pas tous les souvenirs forcément sur le sujet. Mais
et après quelques mots communs, c'est plus dur
ouais,
de
c'est
demander.
Ça aussi. Là, tu m'aurais posé la question au début du meeting, je t'aurais peut-être répondu, mais là, ça devient plus dur. Non, mais plus sérieusement, en fait, on a des. on a des clients qui demandent des choses où on leur dit, mais ça va vous coûter une fortune de le faire. Pourquoi est-ce que vous voulez le faire, en fait? Ça ne vous apportera rien et ça coûtera une fortune. Et qui insiste. Et moi, je pense que c'est là où je pense que j'ai une certaine qualité, c'est quand tu arrives à bien vulgariser et à expliquer au client pourquoi c'est pas forcément une bonne idée, s'il n'est pas complètement buté sur son idée, il va probablement changer d'avis.
Question inverse. Mais c'est quand la dernière fois, est-ce que tu as déjà eu un truc où le client t'a demandé un truc, tu dis, putain, mais il est hyper smart, c'est pas du tout con. Tu te souviens de la dernière fois que quelqu'un t'a demandé un truc, il dit, mais merde, il a raison.
Je me souviens surtout que, peut-être pas exactement ce que tu dis, mais en tout cas, de situation un peu similaire où.
T'as été surpris positivement par le client.
Ouais, c'est ça, mais t'as des questions où, en fait, le client est le facilitateur d'une situation délicate dans laquelle tu te trouves. Et tu te dis, ouais, il a raison, j'avais pas pensé à ça, j'étais trop enfermé dans la solution que je regardais sans prendre le step back de recul.
C'est un exemple concret?
J'ai pas d'exemple concret à illustrer, mais.
Genre la gestion du panier, tu le fais d'une certaine manière et t'as dit, mais on pourrait le simplifier ou l'authentification, ce genre de truc.
J'ai pas d'exemple concret là-dessus parce que j'en avais déjà pas dans l'autre sens. Okay. Sur les demandes irréelles, donc j'en ai pas forcément non plus dans ce sens-là parce que j'ai pas une très très bonne mémoire non plus de ce genre de choses, mais je sais que c'est déjà arrivé à plein de reprises de me dire, en fait, oui, il a raison, ce qu'il demande est pertinent et plus pertinent que ce qu'on proposait. Et donc, allons-y quoi. Après, dans les anecdotes, parce que c'était ce que tu demandais aussi tout à l'heure, il y a les anecdotes qui sont avec le client, puis il y a les anecdotes aussi des projets en interne, forcément, où là pour
Ah
le
oui,
coup,
les dos internes, là ça va être croustillant.
Où là c'est des années de livraison avec des livraisons dans des conditions des fois qui sont
livraison, c'est tu mets
alors,
le site
livraison,
live
c'est ça,
la définition d'une livraison,
c'est en gros ce qu'on appelle la livraison ou le delivery,
mais t'as pu passer un bouton techniquement parce que tout est
non,
anticipé,
non, évidemment pas,
c'est
sur
juste
un bouton parce que c'est jamais aussi
simple
que d'appuyer
particulière, ça
non,
va basculer.
Non mais c'est alors croire que c'est aussi simple que d'appuyer sur un bouton, c'est dans le monde parfait et voilà, mais c'est assez rarement aussi vrai que ça. Et c'est tu prends un package de code, tu le déploies et puis tu as une procédure de mise en ligne, etc., etc. Et en fait, souvent, donc les clients te disent, bon ben voilà, tel jour ce sera ma livraison parce que tu définis
c'est
un jour.
En général, 2h du mat quand il y a personne qui se connecte.
En fait, souvent, c'est le client te dit, c'est jour
samedi,
avec peu d'activité sur le site et c'est en soirée ou très tôt le matin pour éviter l'interruption de service en fait, parce que tu vas couper l'ancien, tu vas mettre en live, enfin tu vas allumer le nouveau.
Mais en général, c'est samedi 2h du mat, non, enfin de la nuit à samedi dimanche,
non
même pas.
Non, ça
va être
semaine. Tu peux avoir des livraisons qui se passent. On a beaucoup de plus en plus de livraisons aujourd'hui. On fait ce qu'on appelle des mises en prod cachées.
Okay.
En fait, on livre en prod, mais sur un périmètre réduit de gens. C'est ce qu'on appelle du friends and family qui va venir se connecter, qui va regarder. Et puis, au bout de 2-3 semaines où le friends and family a regardé, testé et que tout fonctionne bien, tu fais une bascule de l'ancien vers le nouveau. Et là, c'est en claquant des doigts. Versus les livraisons plus anciennes où on a été amené des fois à effectivement livrer tard la nuit, une fois que le business a terminé de travailler, quoi. Et dans ce genre d'expérience, ce qui est assez drôle, c'est on avait un credo chez Itelios, c'était de se dire. Pour ces jours-là, en fait, on le fait main dans la main avec le client parce qu'il y a beaucoup d'opérations.
C'est-à-dire quoi, main dans la main? T'es dans la salle?
Ouais, c'est
dans la
même salle,
room
en fait.
Avec
ouais,
le client, avec des bières et
avec, bah, justement, j'y viens. Et donc, on fait ça avec les clients où on leur dit.
C'est qui le côté client avant que tu continues? C'est qui l'interlocuteur? C'est le mec technique, non? Ou c'est
alors,
le business?
Pas que, parce que tu as des gens du business qui sont là aussi pour prendre la décision, pour valider.
Et ils sont excités à l'idée de voir le site qui change de A à B.
L'exemple que je vais te citer, c'est on avait des mecs assez bien placés chez Lacoste qui étaient venus avec nous pour.
Je crois qu'on va recommencer sans nom. J'ai peur de ce que tu continues à dire.
Non, je vais pas parler de son nom parce que de toute façon. Je ne vais pas le citer et puis voilà, mais on avait des gens donc qui venaient, qui étaient en responsabilité d'un certain nombre de sujets sur cette partie-là et qui venaient à l'invitation d'Italios pour se dire, on fait la livraison ensemble, tu seras sur place, tu verras la température monter, tu verras le moment où ça va marcher et puis où il faut appuyer sur le bouton et prendre la décision.
Et puis
t'as un dashboard ou pas, mais t'as une checklist de choses à faire avant de go live et tu sais que là t'arrives au moment où il y a marqué go live quoi.
Donc ils vont dans vos locaux.
Donc ils viennent dans nos locaux, etc. On prépare
et
le truc et tout.
Parce que si c'est hors des office hours, c'est très tôt ou très tard.
Fin de journée. Ça commence gentiment après-midi, mais le temps que tout se mette en œuvre. Voilà, on fait une petite soirée pizza avant, tranquille, on se prépare, bonne ambiance, machin, etc. Au moment d'appuyer sur le bouton « Allez, on y va », donc on avait appuyé sur plein de boutons avant, mais avant voilà, on se rend compte qu'en fait, le site n'a aucune image en ligne. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu as un site e-commerce et tu n'as pas une seule image visible de produit.
Donc là,
tous les produits sont
Non
donc, mais alors moi, justement, je me décontenance pas et je dis « On peut ouvrir comme ça, c'est pas si grave, non ?» Et le mec à côté du business qui me regarde, qui me fout droit des yeux en mode, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu crois que je vais ouvrir mon site e-commerce sans aucune image en ligne? Mais non, vous me fixez cette merde avant qu'on appuie sur le bouton, quoi. Et effectivement, je comprends ma connerie à ce moment-là de dire, bah non, en fait, effectivement, on va pas ouvrir comme ça. Et donc, on est parti dans un petit mode où, OK, on a un problème en prod. Là, il y a une partie de l'équipe de prod qui est plus là parce que, enfin, des développeurs qui sont plus là parce que.
Et puis le pire, c'est ta client dans la salle.
Et ta client sur l'épaule.
Il est au-dessus de toi. Ouais.
Sur l'épaule. Hein. Ouais, pas au-dessus de toi, il est sur
l'épaule. Il regarde le code et tout ça. Ouais.
Et il te dit, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Et je commence donc à me dire, bon, ok, j'étais encore assez capable de développer à l'époque, donc je me mets dedans et je me dis, ok, je vais essayer de régler le problème. Et puis je prends un éditeur de texte et puis je fais un parsing de XML, enfin bref, un truc de dev pur, quoi. Et je rentre dedans et tout. Et j'essaye de comprendre d'où vient le problème et puis je fais des tests, des recherches et remplacer. Pour comprendre.
Je crois que c'est dans le navigateur un bloqueur, un truc de merde.
Non, alors il y avait une erreur certes, mais j'essayais juste de comprendre et comment je pouvais la fixer. En gros, les URL qui étaient appelées n'étaient pas appelées avec le bon schéma.
Ok, avec les anciennes et tout ça.
Les URL, machin, okay. Sauf que effectivement, j'avais le client sur l'épaule. Après 5 minutes, me disait ouais. Alors, on en est où? Alors et tout. Et donc mon patron Christophe qui a senti à un moment donné que la pression montait bien chez moi et c'est le client donc ouais. Puis bien placé donc je me permettais pas de lui dire d'aller se faire foutre. Mais Christophe lui dit bon écoute, viens, on va aller discuter dans un coin, on va prendre une bière dans un coin. On va laisser Guillaume travailler pendant une heure et demie là-dessus, et puis on viendra le voir après. Et donc, on a codé un truc dans un batch, parce que c'est souvent ce qu'on fait, en fait, c'est on exécute des appels ouais. Dans des batchs qu'on sérialise, et puis ça permet d'exécuter des trucs, et ça exécute des opérations manuelles.
C'est pas propre, mais ça
voilà.
Fait le taf.
Ça fait le taf pour la soirée. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qu'on voulait.
Ouais.
Et à la fin, donc le truc, boum, on le lance, bam, les images reviennent et tout. Applaudissements dans la salle, tout le monde content. On peut go live, machin, etc. Et bah, du coup, de ça, il m'avait dénommé, Batchman ce soir-là, parce ouais. Que le client, parce qu'on avait créé 5 ou 6 batchs en mode vas-y, là, en fait, il n'y a rien qui marche. On va faire des batchs et on va sauver le. On va sauver le
truc. Dégueulasse, mais le client était content.
Absolument infâme.
J'imagine.
Infâme au possible. Non, le client content parce qu'on ouvre.
T'as une plateforme de fou furieux. Tout est propre, le code est optimisé.
Mais tu sais très bien que le lendemain à 9h du mat,
oui.
Tu vas devoir tout refaire parce que ce que t'as fait la veille, c'est infâme. Ouais. Et que ça tient pas 3 jours. Et donc bon. Mais ça passe la nuit, t'as ouvert en temps réel.
Ils étaient contents.
Et ils sont contents. Et après, le patron, il dit, bon, allez, tu vas te coucher, t'as bien bossé. Maintenant, c'est l'équipe de dev qui revient, ouais. Qui travaille et qui récupère et qui ramasse ta merde, quoi. Et ça, c'était plutôt une expérience marrante parce que le côté batchman est resté.
C'est le pire d'avoir le client à côté, non?
Mais c'est dur. C'est dur. Après, c'était un client, il était cool. Il mettait la pression au début, mais quand Christophe lui a dit, écoute, là, il faut ouais. Que t'arrêtes, il a compris, ouais. Il n'y a pas eu besoin, il ne s'est jamais énervé,
et
il n'y a
puis,
jamais eu de problème.
Est-ce que c'est rare de créer de l'événement autour d'un lancement aussi?
Non, c'est pas impossible. Après, en fait, si tu veux, tiens, un autre exemple de mise en ligne un peu particulière, Quicksilver. On veut mettre en ligne et puis, on avait des dépendances avec d'autres projets qui étaient pas tout à fait prêts. Et puis nous, je pense qu'on n'était pas non plus hyper clean, mais on se donnait l'impression d'être prêts alors que d'autres ne l'étaient pas. Donc, à un moment donné, la décision est prise de dire, on va pas mettre en ligne tout de suite. Et le client avait préparé une page d'attente
ouais.
Où tu voyais deux surfeurs, mais alors pour le coup, des surfeurs renommés.
Ouais.
Donc je saurais pas te les citer parce que je suis pas spécialiste.
Il y en a un qui a gagné 15 fois les trucs.
Je sais plus
comment il s'appelle. Ouais.
Et ouais, peut-être Kelly Slater, c'est
voilà,
peut-être le seul dont j'ai le nom en tête.
Je connais moins que toi encore, tu vois.
Mais effectivement, et tu les vois sur un ordi, en train de taper sur un ordi, dans une petite vidéo. Et puis les mecs, ils font, bon, allez, vas-y, ça nous casse les couilles, ça marche pas, on se casse. Et ils prennent leur planche de surf sous le bras et ils vont surfer. Et c'était la page d'attente qui disait, en fait, le site va revenir, mais il va pas ouais. Revenir tout de suite parce ouais. Qu'on a un petit problème ouais. De code. Et c'était, voilà, c'était une expérience fun aussi de se dire, le client, il rentre dans le jeu, il voit bien qu'il y a un problème.
La culture de la boîte, tu la vois dans ça.
Avec les gens Quicksilver, ça a été une éclate totale parce que. Moi, je me souviens qu'on était en train de finir les derniers réglages et que dans les locaux, parce que là, pour le coup, c'était dans leurs locaux qu'on ouais. A fait la mise en ligne. Dans leurs locaux, on était dans une espèce de sous-sol,
ouais.
Dans une espèce de vieille cave infâme de dev pour faire le travail. Pendant qu'eux, ils étaient à l'étage, dans un espèce de bar où ils avaient une tireuse à bière et tout, et ils étaient tranquilles en train de se servir des bières. Puis quand on est remonté pour leur dire, bon, bah, c'est bon, nous, on est prêts. Ils nous ont dit, ah, bah, c'est cool, les mecs, allez, tiens, on vous distribue des goodies,
cool.
Vous prenez des bières
mais
et puis on y
ça
va.
Ça va pas être la même dans le luxe, hein. À mon avis,
non, c'est pas la même.
C'est pas du tout les mêmes.
Mais tu peux trouver des ambiances pareilles. Parce que souvent, t'as quand même, tu vas pas avoir le CDO qui vient le jour ouais. De la mise en ligne, c'est assez rare. Ou s'il vient, c'est qu'il est dans un bon mindset en général. Enfin, jusqu'à présent, en tout cas, j'en ai croisé plutôt dans des bons mindsets.
Donc tu vois encore que ça arrive des fois d'immortaliser les moments et de formaliser un peu ce truc.
C'est sympa. C'est sympa parce que c'est l'aboutissement, surtout si le projet a été duré longtemps. Là, le dernier projet où j'étais, c'est deux ans de build quasiment entre le build et le design. Allez, peut-être un peu moins avant qu'on mette le premier site en ligne, mais. C'est un événement où tu participes avec le client et t'as l'accomplissement de quelque chose que vous avez tous fait ensemble. Et puis après, t'as souvent la traditionnelle pluie de mails. Elle est interne et elle est externe, c'est-à-dire t'as le client qui te félicite et là tu reçois tous les mails de tout le monde qui dit ouais. Merci, c'est génial ce que vous avez fait, etc. Et t'as la pluie de mails aussi interne dans ta boîte où les gens disent bah voilà, on vient de mettre tel site en ligne et puis là t'as tout le monde qui félicite. C'est un moment important.
Même si on voit pas la vraie complexité des trucs. Parce
ouais,
que souvent
sûr,
toutes les merdes avec le client, le machin, le truc,
non.
On voit juste l'aboutissement, mais il y a tellement tout le stress
mais
que ça accumule.
C'est
prends
un moment important
quoi,
de la vie du projet. Moi j'ai jamais été chef de projet, donc c'est jamais trop moi qui ai écrit ce genre de mail, mais souvent les chefs de projet ont la responsabilité d'écrire le mail. un remerciement pour dire justement merci à l'équipe, machin, on vient de mettre en ligne tel site, je remercie un tel qui a fait ça, je remercie Bidule qui a fait ça, machin, etc.
À mon sens, c'est un des boulots les plus difficiles, quoi. Déjà,
ce mail, quand il part, c'est une reconnaissance du travail accompli pour plein de gens et c'est souvent
agréable. Mais regarde, Guillaume, tu reçois ce mail, mais t'es déjà sur deux autres projets, etc.
Après, la réalité, ça dépend du rôle que t'as eu dans le projet.
Ouais, mais tu te fais fouetter toute la journée. Un jour, on te donne une coupe, mais tu te fais fouetter le matin même. Enfin, ouais, c'est hyper difficile.
Ça dépend du rôle que t'as eu dans le projet. Et moi, j'ai jamais eu des rôles très difficiles, donc j'ai toujours vécu ça comme des moments agréables, en fait.
Oui, mais parce que t'as commencé. Bon, bref, ouais,
j'ai commencé aussi, comme tout le monde, en bas d'échelle d'aide.
Exactement
et,
ça.
Et tu vois ces mails-là et tu te dis, le mail c'est sympa, mais par rapport à la reconnaissance de ce que j'ai fait, c'est pas juste un mail qu'il me faudrait.
C'est exactement ça. C'est tellement sous-dimensionné par rapport à tout le stress.
Ça reste agréable de te dire que tu as réussi cet accomplissement en fait.
Oui, et puis c'est toute chose égale par ailleurs. C'est la naissance d'un truc, tu as lancé un projet, c'est fier.
Et puis aussi, c'est de dire que tu as fait des fois des livraisons tout seul dans ton coin avec tes équipes projet où tu fumais des gros pétards pendant que tu étais en train de livrer le site, tu te grattais les couilles devant la télé pendant que tu faisais la livraison et tu étais dans un mode où tu étais détendu.
Le taf était bien fait.
Oui, mais pas toujours. Parce que j'ai un exemple de mise en ligne où juste justement pour un client dans le alors je veux pas le citer mais c'était alimentaire / produit de jardinage.
Attention, il n'y en a pas 50.
Alimentaire animaux / produit de jardinage. tu couperas si tu as besoin de couper.
Je coupe rien.
Donc ce client où on fait la livraison en interne chez nous, Itelios à l'époque, avec toute l'équipe projet, la bande habituelle, les Fabrice, les Olivier et tout ça.
La clique.
Et on livre le projet. Je crois qu'Olive était à distance. Nous, on était sur place avec Fab et deux, trois autres. Et on se fait plaisir. On se livre les pizzas, machin. On fait la livraison à notre rythme. On sait qu'on a la nuit devant nous. On sait qu'on va devoir faire plein d'opérations.
Donc là, t'es dans les locaux,
checklist.
C'est ça?
C'est ça. On sait qu'on a de la nuit devant nous,
mais
on a une checklist de malade à faire.
Tu es endormi ou quoi?
Attends, j'y viens. Et on livre le truc et puis on prend le temps de discuter. C'est là où justement on échange nos points de vue sur le e-commerce, machin, etc. Et on livre à notre rythme. Et un truc qu'on aurait pu faire en deux heures si on était resté ultra sérieux, on y passe 6 heures, 7 heures de la nuit.
Mais tu refais la live, tu discutes.
Parce que tu le fais avec un pétard tranquille et puis t'en rigoles quoi.
Puis là, tu crées des liens.
Et c'est là que tu crées du lien. On l'a vécu parce que pour répondre à la question des matelas et tout, on l'a vécu aussi avec le client. C'est-à-dire que ça, j'ai une autre expérience, groupe de luxe, enfin pas groupe de luxe, groupe cosmétique. Qui nous dit rollout international, on veut livrer, le client vient tout seul chez nous et on est trois personnes de l'équipe tech, moi-même, Antonin Brachet et un autre collègue avec qui on fait la livraison. Et en fait, le client qui est là, et puis on se rend compte qu'on va pas y arriver, ça marche pas et tout, il est déjà 4h du mat.
Et il s'est déplacé.
Il est 4h du mat, et le client, il est mort comme nous. Et il commence à écrire le mail qui dit à toute sa direction interne, désolé les mecs, en fait, on va pas livrer.
Mais il était compassion et compagnie, il était c'est cool ça.
Et bref, et puis le dev sur place qui dit... Je te rappelle cette anecdote parce qu'on me l'a rappelé il y a pas longtemps quand je les ai revus ces gens-là et je l'avais complètement zappé de ma tête évidemment et ils me disent enfin le dev nous dit j'ai peut-être un dernier truc à tester et moi je dis tu sais quoi vas-y teste-le si tu veux mais je me coupe une couille si ça marche. J'étais persuadé que le truc marcherait pas, il était 4h du mat.
Et c'était bidon ce qu'il proposait ou c'était smart?
Son truc avait l'air super bidon.
C'est ça le pire.
Donc je me dis mais vas-y fais ça si tu veux, il est 4h du mat, 4h, 4h30, je m'en bats les couilles maintenant, on s'en fout quoi. Il fait le truc, on teste, ça marche premier truc, je me dis non c'est pas possible. On reteste machin etc et ça marche en fait.
Il avait déjà envoyé le mail l'autre?
Non mais justement il s'était retenu d'envoyer le mail le client. Et donc du coup depuis ce jour-là ces deux-là me rappellent régulièrement que en effet je leur dois une testicule parce que j'avais trop ouvert ma gueule et dans ces moments-là c'est irréel en fait. Tu peux faire des trucs comme les batchs que j'avais fait de tout à l'heure dans ce que je te racontais. Tu fais des trucs, tu te dis c'est dégueulasse, ça va pas marcher, c'est pas possible, ça peut pas être un truc comme ça et en fait si ça marche.
Alors après
par contre,
ça c'est
le lendemain, il faut que tu le fixes parce que c'est infâme.
Mais après c'est le monde du code, du dev, etc. Des fois il y a des trucs que tu comprends pas tout de suite et tu peux fixer rapidement mais bon c'est pas propre.
Mais ça te fait des anecdotes et du coup c'est des gens que j'ai revus là récemment dans le cadre d'un dîner ensemble et c'est une anecdote à se raconter, c'était il y a 10 ans je pense cette histoire et quand on en reparle aujourd'hui ça nous fait rire parce que moi déjà j'avais oublié l'histoire mais ça nous fait rire de se dire on a fait la livraison ensemble et c'est ça dont on se rappelle de la livraison en fait.
Guillaume, on arrive vers la fin, des questions rapides pour toi. Un influenceur que tu suis ou que tu aimes bien ou t'es pas du tout dans ce délire influenceur, il y a quelqu'un que tu
pas spécialement,
même pas des Elon Musk, des Bill Gates ou je sais pas quoi, rien du tout, personne?
Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te parlais de veille ou de choses comme ça, c'est pas...
Mais en termes de personnalité, est-ce que tu veux voir à la télé ou quoi que ce soit?
Non, après, j'ai des influences dans ma vie perso, mais pas du tout pro, en fait.
Ouais, et dans la vie pro, il y a personne? Non.
Dans la vie pro, non, j'ai pas de... J'ai pas
Une inspiration? c'est un petit peu lié, mais il y a personne qui t'inspire, une marque qui t'inspire.
Je suis fan des clients pour lesquels je travaille la plupart du temps.
Parce que tu choisis tes projets, mais, donc en fait, si tu les aimes pas, tu vas pas bosser avec.
Oui et non, c'est-à-dire que ça reste dans le même secteur d'activité. Ouais. Par contre, j'apprécie énormément de les découvrir.
Les quoi ?
De les découvrir pendant le projet, de comprendre ce qu'ils font, ce qui les différencie les uns des autres. Pourquoi est-ce qu'un tel, il vend tel produit haut de gamme, et pourquoi est-ce qu'un tel, il vend tel autre produit haut de gamme ? Quelle est la différence entre ces deux maisons de luxe, etc.
Mais pas jusque-là, est-ce que ça t'inspire aussi ?
Ça va pas jusqu'à m'inspirer, peut-être pas jusque-là. Mais,
parce que là, tu fais c'est due diligence, tu fais ton taf, quoi. Tu comprends la culture.
C'est un peu plus que ça, c'est de comprendre pourquoi il fait ça et m'attacher au client. Alors c'est les personnes bien sûr avant le client, les personnes qui représentent tout ça, mais derrière ça c'est quand même de m'attacher à ce qu'ils font,
avoir de l'empathie, comprendre ce qu'ils font, etc., se mettre dans leur peau. Ton site e-commerce préféré, soit parce que tu achètes, surtout parce que tu achètes en fait, ou
alors,
pour d'autres raisons
de manière très
tu aimes bien Amazon, je sens.
Non, alors oui, je t'aurais dit Amazon probablement. Après il y a plusieurs sites e-commerce. Le site e-commerce que j'aime beaucoup parce que j'achète beaucoup de choses dessus, c'est très perso, c'est par rapport à ce que je fais dans ma vie à côté. C'est un site de e-commerce autour du jeu de rôle qui vend des jeux de rôle, des jeux de plateau, etc. Black Book, c'est un éditeur français.
Black Book
édition, éditeur français de jeux de rôle.
Ils font des jeux de rôle,
ils disposent plein de choses comme ça. Donc j'achète très régulièrement chez eux. Même si le site est franchement.
C'est sur quoi? C'est du Magento, PrestaShop?
Je sais pas sur quoi c'est fait, mais d'un point de vue.
Putain, c'est la première chose que je regarde, moi.
Non,
quand
moi je regarde pas ça, mais je regarde l'esthétique et voilà. Et ça se voit que. Mais après, ça marche et ça fait le job. Mais si j'avais contribué à ce site, je l'aurais pas fait comme ça.
Donc, Black Book Edition.
Et là, c'est pour le coup, c'est un peu pour les chevilles que je dis ça, mais les sites e-commerce sur lesquels j'ai travaillé, je suis assez fier du rendu de ce que ça donne, même si aujourd'hui. Mon principal regret, c'est je donne plus d'ev dessus, donc j'ai le sentiment d'appartenance par rapport à ce que je crée qui est bien plus distant qu'à l'époque. À l'époque, quand j'avais travaillé sur Quicksilver et que j'avais fait du dev dessus, c'est moi qui l'ai fait.
Et voilà.
Lacoste un petit peu, mais déjà un peu moins sur la deuxième version. Là aujourd'hui, les sites sur lesquels je travaille, j'ai rien fait, j'ai pas codé une seule ligne de code. J'ai juste donné
des
trucs.
Mais c'est pas juste coder, mais bon, ça c'est une discussion après.
Mais c'est le côté développeur qui revient et qui fait que je suis fier de ces réalisations. Mais je sais que je ne suis pour rien dans leur.
Et le site sur lequel t'achètes le plus souvent, ça reste Amazon. Quand t'as besoin d'un truc, tu vas sur Amazon.
Non, ça reste Amazon. J'ai besoin de piles avant-hier.
C'est un achat débile que t'as fait, complètement stupide ou what the fuck, qui reste dans la merde. Attention, on est PG 18 ou je sais pas comment on dit, tu vois.
PG 13, 18. J'ai acheté parce que j'avais la flemme de le faire. J'ai acheté un robot aspirateur.
Mais c'est canon, les Roomba là.
Ouais, je sais plus si c'est ce
une
modèle-là,
marque,
mais c'est un truc comme ça.
Et gadget,
puis après, je me suis
dit,
exactement, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, il passait pas du tout en dessous de mon canapé, donc il s'éclatait à chaque fois. Voilà. Et qu'il me sortait les câbles partout. Et comme de toute façon, j'ai pris une femme de ménage, bah en fait.
Aucun
intérêt.
C'est quoi la légende urbaine que tu vois le plus souvent et qui te gonfle? Est-ce qu'il y en a une quand tu parles avec tes clients,
dans
tes prospects?
Tu veux dire,
dans l'e-commerce, tu vois, un truc où tu dis, putain, c'est encore la même chose, il va falloir que je lui explique. Alors, un truc récent, parce qu'il y a 10 ans, c'est pas la même chose que maintenant, mais est-ce qu'il y en a une en ce moment où tu te dis, ok, il est dans ce truc-là, il va falloir que je lui explique la life?
Un truc que je vois assez récemment, et je l'ai vu pas plus tard qu'aujourd'hui chez le client avec qui j'étais, c'est le degré de complexité à gérer un inventaire de stock unique sur une plateforme e-commerce en agrégeant les données du site e-commerce, mais aussi des magasins qui viennent fournir le site e-commerce. Et en fait, il y a plein de gens qui se disent, mais c'est super simple, il suffit juste d'additionner les stocks ensemble, et puis boum, tu mets ça en ligne, machin. Mais non, en fait, c'est des projets. Qui sont compliqués à mettre en œuvre, d'autant plus aujourd'hui où tu as des réseaux de distribution qui sont très compliqués. Quand tu vas aller par exemple aux US, tu peux peut-être avoir 3-4 entrepôts par rapport à la largeur du territoire. Tu as des magasins à Los Angeles qui vont pas expédier à New York parce que ça n'a aucun sens. Enfin bref, c'est
il y a plein de règles que tu ne vois pas.
Il y a plein de règles que tu ne vois pas.
Et puis d'interconnexion d'outils,
c'est simple en fait. Mais non, c'est pas simple ces métiers-là. Et ce métier-là derrière, il y a une vraie intelligence derrière.
OMS/inventaire, ça te trigger un truc, tu dis oh, attention, là on est dans un terrain miné.
Tu sais tout de suite que ça va être compliqué.
Parce que le client, il sursimplifie le bordel.
Et les gens, ils ont tendance à penser, en fait, c'est trop simple à faire. Ouais. Mais non, c'est pas simple.
Et dans les projets e-commerce, si tu me cites ça, c'est que c'est la partie sur laquelle tu seras un peu plus. Parce qu'en fait, il y a peut-être moins de maturité côté client, donc tu feras un peu plus attention là-dessus.
En fait, il y a une mouvance dans le e-commerce, alors c'est cyclique, donc ça reviendra probablement, mais qui a été pendant longtemps, on s'intéresse à la problématique du front, et on fait en sorte que le front, ce soit, Maintenant, on est un peu plus à se dire, il faudrait quand même qu'on arrive à bien gérer une supply le plus automatisé possible.
Je suis complètement d'accord avec toi.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être capable de livrer en deux jours ou en un jour, on doit être capable d'annoncer nos délais de livraison, on doit être capable de gérer des volumes de commandes qui sont monstrueux, on doit faire des annulations, des remboursements, des échanges en ligne, on doit faire du click to store, du ship to web, du machin, etc. on doit acheter en ligne et être capable de se rembourser en magasin ou l'inverse, etc., etc. Et ça, en fait, ça complexifie d'autant plus les choses et ça fait que c'est plus un projet d'e-commerce, c'est un projet d'e-commerce plus une supply chain derrière et un réseau de distribution et l'embarquer les magasins.
Ça veut plus rien dire si projet e-commerce.
Ça veut dire que derrière tu mets en place des solutions d'OMS.
C'est ça.
Ça veut dire machin. Et en fait, les gens se disent non, mais c'est que du e-commerce. Non, c'est pas du e-commerce. C'est un métier, un sous-métier du e-commerce. Il y a plein de métiers dans l'e-commerce et celui-ci n'en est qu'un seul parmi d'autres. L'expérience front, c'est une chose.
Après, Guillaume, le délire, c'est que dans les équipes, tu le sais très bien, quand tu vas travailler avec tes équipes, quand tu appelles e-commerce, c'est juste en charge du front,
bien sûr,
online, ben, digital. Alors que quand on parle d'un projet e-commerce, mec, c'est plein de trucs. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est quoi le conseil qu'on t'a donné dans ta carrière, peut-être tôt dans ta carrière, et tu t'es dit, putain, ça, c'est un bon conseil, et ça t'a marqué. Est-ce qu'il y en a eu un comme ça? Peut-être Christophe ou peut-être d'autres que tu as pu avoir.
En fait, il y en a eu quelques-uns. Les conseils classiques qu'on donne à un dev.
Mais qu'on t'a donné à toi, mec.
Mais qu'on m'a donné, mais qu'on donne à d'autres devs qui sont. Tu sais, tu dois faire en sorte que ton code il soit réutilisable, qu'il soit.
Lisible.
Lisible déjà, mais aussi, surtout. Le premier truc qu'on te dit, c'est construire un truc. Tu parlais tout à l'heure de Itelios build versus thème.
Ouais.
Et tu disais Itelios bon sur le build, moins bon sur le thème. Souvent, en fait, les boîtes, elles ont tendance à essayer de racheter ce qu'a coûté un projet au forfait sur le build en faisant une TMA où, justement, tu vas faire des choses simples, mais que tu vas facturer cher parce que.
Ouais.
Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est faisable si on te dit pendant le projet, quand tu construis
TMA,
ce truc-là.
Tiers maintenance applicative.
TMA, tiers maintenance
en général, le business model, c'est quoi? C'est 15% du projet.
Je suis nul en chiffres et là-dessus, j'ai jamais trop vu.
Mais tu payes un prix chaque mois pour les évolutions.
Pour maintenir ton site avec
juste pour la maintenance. Voilà, c'est ça, exactement.
Des évolutions de la plateforme.
Voilà, des petits trucs.
Calibre, on va dire.
Voilà, c'est ça.
Et en fait, ces évolutions, c'est justement, tu fais évoluer le socle de base vers une nouvelle version. Et donc, on te dit, si tu as bien construit ton truc au début, pour qu'il fasse A plus B, mais que demain on te dise faire A plus B plus C, bah ça coûtera pas très cher de le faire évoluer. Et pour autant, on pourra toujours le facturer cher au client. Et en fait, donc on t'apprend quand t'es jeune dev à te dire, donc fais des choses évolutives. Et ça pousse un vice, des fois, chez les développeurs, de se dire, plutôt que de livrer ma feature là, terminée maintenant, je vais faire en sorte qu'elle fasse A plus B, et demain je sais que j'aurai plus C plus D plus E plus machin. Donc je vais faire une feature compliquée, et je vais passer donc énormément de temps à la faire, dès le départ, parce que je sais que je veux qu'elle soit évolutive. Et ça, pour moi, c'est un mauvais conseil qu'on donne aux devs. Et pour, du coup, je vais répondre à ta question maintenant en disant le bon conseil qu'on doit donner aux devs et qu'on m'avait donné à l'époque là-dessus, c'est de se dire, il faut savoir où t'arrêter dans la capacité à évoluer.
Chercher le parfait.
Tu ne peux pas atteindre la perfection sur ce truc-là.
Mais il ne faut pas non plus le quick and dirty. Parce que si tu vas trop quick and dirty,
le premier niveau de développeur, c'est le mec qui fait du copier-coller.
Ouais.
Le deuxième, c'est on lui apprend que faire du copier-coller, c'est mal et donc il doit factoriser au maximum.
Ouais.
Le troisième niveau, c'est celui qui sait quand il faut faire du copier-coller parce qu'il y a des fois où il faut le faire.
Ouais.
Et celui-là, il sera meilleur que les deux autres parce qu'il saura faire du code normal, il saura le factoriser quand c'est nécessaire et il saura ne plus le factoriser.
Ouais.
Et il saura ne plus le factoriser et donc juste le copier-coller quand le ROI ne vaudra pas le coup.
Ouais.
En fait, tu vas te lever un matin et on va te dire faire en sorte que ton code là il soit souple à toutes les évolutions possibles qu'on veut faire, il faut 100 jours pour le développer ce truc là. Non, en fait, on va l'utiliser deux fois dans deux configs différentes.
Mais tu le factures 100 jours ou tu le factures moins parce que tu sais
en fait,
que
faut surtout pas le faire en fait en mode 100 jours. Ça sert à rien de le faire en mode 100 jours parce qu'à la fin, le client va te dire eh oh, c'est toujours pas live mon sujet là. Donc le bon conseil qu'on m'a donné à l'époque, c'est
conseils bidons, Guillaume. Ça, c'est les conseils où il faut une vie pour l'intégrer. Tu vois, c'est un conseil compliqué.
Je pense pas que ce soit si compliqué.
Un mec qui dit ça, tu sais très bien qu'il va falloir minimum 5 ans ou 3 ans, on va dire,
non,
avant que tu puisses l'appliquer.
Non. Moi, j'ai vu des développeurs qui l'apprenaient beaucoup plus vite que ça.
Okay.
Où tu leur dis...
C'est comme les conseils croient en toi. Mais mec, il faut une vie pour
dire... Mais c'est important parce que je pense qu'on le dit pas assez de fois. C'est de dire... Et c'est valable au-delà du dev, c'est juste sois pragmatique.
C'est ça le vrai conseil derrière. Parce qu'il faut avoir du recul.
Oui.
Faut savoir est-ce que ça vaut le temps que je passe autant de temps. Parfois c'est stratégique, donc oui, et parfois c'est juste un petit
quand tu commences à parler à un client et que tu dois justement expliquer pourquoi est-ce que tu vas faire ça et pourquoi est-ce que tu ne devrais pas faire ça, il faut être pragmatique et il faut lui dire là il faut t'arrêter en fait. Et moi, ce qui a fait ma force aujourd'hui dans les projets où je suis et quand on me sollicite sur ces projets, c'est que justement je donne mon avis en étant pragmatique et en disant ça vous devriez pas le faire comme ça parce que ça va vous coûter trop cher parce que ça vous apporte.
En fait, il y a un déséquilibre entre le temps investi, le coût et le bénéfice.
C'est une histoire de ROI.
Voilà, ça fait pas sens de faire ça. Et d'autres conseils qu'on t'avait donné ou ça c'était le conseil principal?
C'est celui qui me revient le plus souvent en tête.
Et si demain, t'as un nouveau gars qui arrive, t'as un petit frère qui veut se lancer dans le truc, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Parce que c'est le même conseil que tu lui donnerais autre chose.
Alors,
si t'avais un conseil à donner pour quelqu'un qui se lance.
À souvent utiliser cet exemple-là avec des jeunes devs et à leur dire, voilà, si tu veux progresser dans le bon sens, je pense que c'est intéressant. Le conseil que je donnerais, et il va un peu dans le même sens, mais il s'exprime différemment, c'est reste terre à terre. On fait des sites e-commerce, on lance pas des fusées sur la lune, en fait. Moi, j'ai tendance à dire à certains de nos archis, j'en parlais tout à l'heure, qui sont des fois des gars qui sont capables de construire des architectures de malades et de faire des trucs de ouf.
Ouais.
On n'a pas besoin de ça, en fait. On lance pas des fusées sur la lune. Encore une fois, on fait des sites e-commerce. Mm. Et avec des logiciels qui nous aident à les faire plus vite parce qu'ils ont déjà une base de développement dedans. Donc
moins de branlette intellectuelle et plus de pragmatisme.
Voilà, rentre directement dans le sujet, arrête de te dire « Et si je faisais ci comme ça ?» Non, en fait, on s'en branle, excuse-moi, mais...
Mais il veut faire des trucs pro, mais c'est le problème. Quand tu es trop perfectionniste, je veux tout optimiser, ouais, tu vas passer trop de temps et in fine, en fait, t'es pas sur d'autres projets, t'es facturé, etc. Ouais.
Et c'est ça, t'es facturé et après, il y a un objectif de...
De rentabilité, comme dans toutes les boîtes.
De rentabilité, mais même au-delà de la rentabilité. En fait, à un moment donné, juste pour toi, c'est te dire pourquoi est-ce que je passe 6 mois à faire ce truc-là alors qu'en réalité, j'aurais pu le faire en 3 semaines si je reste terre-à-terre, pragmatique. Mmh. Et il y a des gens qui attendent après moi, etc. quoi. Mmh. Donc, rester terre-à-terre, rester proche du terrain.
Terrible de la fortune de Jeff Bezos ou t'es Jeff Bezos. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent?
Alors, je fais en sorte que, même s'ils sont déjà très riches, le PSG soit mieux géré. C'est-à-dire que
tu rachètes le PSG.
Je rachète le PSG je rachète le PSG au Qataris, ce qui sera pas une mince affaire parce qu'ils sont probablement eux aussi très riches. Et ensuite, je le gère à ma façon. Qui serait probablement différent de la leur. J'appellerais plus ça une startup parce que ce serait quand même une boîte accomplie.
C'est
mais
clair.
Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je fais à titre perso. Si je dois parler d'un sujet plus pro.
Non, mais c'est très bien. Non, mais la réponse, elle est très, très bien. C'était une question ouverte et puis c'est très bien. Sauf si tu penses à autre chose. Mais là, la réponse, elle est canon.
En fait, je pense à un autre truc. C'est me dire que j'aimerais bien essayer de construire. Enfin, on parle souvent dans le. Je crois que c'est un terme qui est très utilisé côté. Avocat, justice, finance, etc., pro bono et tous ces trucs-là. Et j'aimerais bien me dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui ont probablement des idées géniales et qui ne savent pas comment les mettre en ligne. Comment est-ce qu'on pourrait les accompagner? Et dans la boîte où je suis aujourd'hui, qui est une grosse boîte, à un moment donné, frappé par le Covid, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour aider les gens qui n'avaient rien en ligne avant, qui ont besoin de quelque chose maintenant et qui peuvent avoir besoin de faire une plateforme e-commerce très rapidement pour ne survivre, en fait. Parce que les magasins sont fermés, mais voilà. Donc, tu avais dans la restauration tout un tas de boîtes qui ont fermé et heureusement, tu as des Allo Resto, Just Eat et d'autres qui te. Ou Deliveroo ou autres qui leur ont permis d'atteindre de nouveaux clients en ligne. Mais il y a eu plein d'industries qui auraient été concernées par ça et qui n'avaient rien en ligne. Et donc, si j'avais du pognon, je pense que j'essaierais de construire aussi à côté des gros projets que tu fais pour des gens qui ont plein de thunes. Construire des projets pour des gens
qui ont... Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire
tu leur proposes
financer des sites e-commerce pour des gens qui en ont besoin, mais qui n'ont pas les moyens de se
payer. Ils ont un formulaire en ligne. Je suis un restaurateur ou je sais pas quoi, je suis un artisan.
Ouais, avec des ambitions peut-être un peu plus larges que ça, parce que je pense que la restauration, c'est
un exemple.
Les plus desservis, mais.
Ouais, mais c'est un exemple. En gros, tu vas prendre les trucs et tu vas dire, je vais tout te faire ta transformation digitale. C'est le mot que tu n'as pas utilisé, mais en gros, c'est ça.
C'est
mec, je vais t'aider à être en ligne. Voilà, c'est ça. Je vais te faire
gratos. Tu rentres dans mon cahier des charges de secteur slash industrie.
Des business, mais derrière, t'as des personnes surtout, parce que qui vivent de ce business.
Ça, en fait.
Et l'impact, il peut être énorme. Ok, écoute, merci beaucoup, Guillaume. Pour terminer, j'ai un dernier petit jeu avec toi. T'es prêt?
Yes, vas-y.
Ok, je vais te filer un jeu de cartes.
Oui.
Il y a plein de. Tu vas voir, il y a plein de mots
je
qui sont écrits de valeur.
Oh,
vas-y, Matt, tu peux poser le micro. Et j'aimerais bien que tu en choisisses. Ah, tu le mélanges. Joueur de poker ou quoi?
Non, mais je veux dire que tu me files un jeu de cartes, donc ça se mélange
pas. Non, ça se mélange pas en fait. C'est des cartes, il faut que tu les scannes. Mais on a le temps, prends le temps qu'il faut, tu les regardes. Il y a des mots dessus. Et en fait, j'aimerais bien que tu en choisisses un, deux ou trois qui te parlent particulièrement. Donc, vas-y, pose le mic.
Ouais.
Regarde le truc tranquille. Et un ou deux, trois, et après je veux juste savoir pourquoi tu les as choisis, on en discute. Donc c'est des cartes de valeur. Et voilà, on va terminer avec une touche un peu plus perso. Prends le temps de les scanner, tu peux faire un petit tas des trucs que t'aimes bien, et après tu review tu revois les listes. File-moi ceux que tu n'as pas choisi, comme ça je vais les dire au mic, ceux-là. Donc on a par exemple ce courant, ouverture d'esprit, curiosité, esthétisme, unité avec la nature, autonomie, etc. Il y a peut-être une cinquantaine de cartes avec des valeurs. Donc je te laisse regarder ça.
Alors, je te fais quoi? Je te les lis?
Vas-y, la première. On commence par la première. C'est quoi?
Attends, c'est pas la première. Celle-là dans ma tête, c'était celle-là. La santé d'un individu est proportionnelle à la quantité de son rire.
Et derrière, c'est quoi? Parce que normalement, je crois que c'est un nom.
Il y a des choses de rire.
Ouais, c'est ça le truc. Santé. Alors vas-y, pourquoi t'as choisi cette carte santé?
Alors, j'avais pas choisi ça par rapport à la santé. J'avais plutôt choisi ça par rapport à la deuxième partie de la phrase, proportionnelle à la quantité de son rire.
Ouais.
Moi, c'est quelque chose. Enfin voilà, je conçois pas ma vie au travail ou professionnel sans m'éclater tous les jours, sans rigoler.
Pourtant, les devs, on pourrait dire qu'ils sont pas très fun. J'y sens en rigolant, parce qu'en fait, c'est pas vrai. L'humour des devs est trop marrant.
Mais ouais, après, il y a eu.
Tu sais, t'as les commerciaux qui se marrent et tout ça, et t'as les devs qui sont sur leur machine.
Il y a un côté. Mais l'humour est trop marrant. Voilà, j'ai fait toutes les différentes strates dans la boîte, être le dev avec juste l'équipe de dev, faire partie du comité de direction à l'opposé, etc. T'as des niveaux d'humour qui peuvent être les mêmes, quel que soit là où tu es, si tu restes toi-même, en fait. Et effectivement, moi, je me suis éclaté pendant plein d'années chez Telos, de 2004 à 2021, enfin, les 2020, on va dire. Donc, 16 ans. J'ai évidemment souffert du départ de tous mes collègues qui sont partis le après plus le aujourd'hui, après le rachat. Pour autant, on s'éclatait et c'était un cadre de travail agréable, etc. Aujourd'hui, il est toujours agréable, mon cadre de travail, et j'ai des collègues avec qui je m'entends toujours bien. Et c'est important de continuer à rire. Et voilà, et ça, c'est d'un point de vue pro. D'un point de vue perso, c'est pareil. Je vais aller voir des amis ce soir et j'ai envie de m'éclater et de rigoler et j'ai pas envie d'amener mes malheurs avec moi.
Life is too short.
Voilà, c'est ça, exactement. Moi, je la vis à 200%.
Encore, je vais revenir sur le boulot, mais les clients, ils sont fun ou pas?
Ça dépend. Franchement, il y en a qui sont très,
et qui
très fun.
Pas pour de la merde parce qu'ils payent et donc t'es le prestat.
Et non, en fait, c'est, je te disais tout à l'heure l'histoire de couper une couille.
Ouais.
Le client avec qui ça nous est arrivé, c'est aujourd'hui un ami plus qu'un client. Alors en plus, beau côté de l'histoire, parce que le monde de l'informatique est petit, le monde du e-commerce est encore plus petit, c'est probablement. On va se retrouver chez le client chez qui je suis aujourd'hui. Il va probablement venir travailler chez ce client-là, où là, moi, je suis en mission. Et à l'époque, quand on a travaillé ensemble, on a appris à se découvrir dans le projet. Et puis assez vite, on a vu
qu'on s'entendait. C'est dans les galères que tu crées des liens.
Et voilà, et on rigole. Et après, c'est pas un ami ultra proche, mais ça reste une bonne connaissance avec qui je suis content de travailler.
Donc, tu peux
quand
même te marrer avec les clients.
Et on s'est éclaté
avec
lui.
Tu n'es pas traité comme la prostichienne parce que tu es l'agence et tu vas te délivrer.
Silver, aujourd'hui, j'ai quelqu'un avec qui je m'entends encore toujours très bien aujourd'hui chez le client. Et je me souviens d'une première grosse soirée passée avec lui où il nous faisait visiter Biarritz. Ouais.
Mais après, ça, il y a certaines boîtes, c'est la culture. Genre, je suis quick, j'ai gardé un contact avec une personne là qui habite en Suisse maintenant, mais il est chambé, tu vois. Oui. C'est vraiment un.
Peut-être pas un pote, en tout cas. La question, c'est. Ouais, il nous a dit, bon, allez, les mecs, on a fini de bosser. Ouais. Maintenant, on passe à la suite. Alors qu'on n'avait pas vraiment fini, on n'avait pas tout livré proprement. Mais. Voilà, fin de la journée, boum, il nous fait faire la tournée des bars à Biarritz. Il était introduit partout dans toutes les boîtes. Et puis, à un moment donné, on le voit, je me souviens d'une photo où on a une photo de lui. Il est en train de pisser contre un mur en mode gros dégueulasse et on est tous morts de rire à côté. Et ça nous fait marrer et ça crée des liens, en fait. Donc, c'est intéressant, pro et perso, bien sûr.
Puis même nous, on a des doses et tout ça en off. Mais donc, toi, tu dirais que tu ris beaucoup aux blagues des autres ou est-ce que t'es bon, tu fais rire les autres?
Alors, je pense que j'essaye plus d'être le côté un peu caustique qui dit de la merde et qui fait du coup rire un peu les autres. Mais après, je suis volontiers
bon
très bon public aussi.
Ouais. Okay. Vas-y, deuxième carte, file-moi celle-ci.
Deuxième carte, tiens, je te donne celle-là. Rendre service aux autres, c'est se rendre service à soi-même.
Alors derrière, c'est écrit quoi?
Réciprocité des services rendus.
Ouais, avec une charmante demoiselle. Ouais.
Alors évidemment que ça me parle.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Ça fait
et pourquoi ça
22 ans que je fais du service aujourd'hui.
Ah ouais, carrément, c'est clair.
Et dans ces 22 ans passés à faire du service, moi j'ai des copains, un que j'apprécie particulièrement, qui me dit qu'il en peut plus, qu'il en a marre.
Ouais.
Et je peux le comprendre parce que c'est usant, effectivement. On disait tout à l'heure, les clients, t'en as des très cool, t'en as des beaucoup moins cool. Et quand tu dois les renégocier, machin, etc., voilà.
T'es pas peut-être considéré
que,
pour ce que tu fais.
Peut-être que moi, je suis moins concerné que lui par ces problèmes-là parce que je suis pas sur les aspects financiers d'un programme, etc. Moi, j'apporte du conseil dans un programme et donc, du coup, j'ai tendance à être vu comme l'expert sachant, donc t'es jamais mal perçu. Donc, forcément, j'ai une perception du contexte qui est meilleure que la sienne. Mais moi, je fais ce métier pour le service aujourd'hui parce que justement, j'apprécie d'aider. Alors, même s'ils n'ont pas besoin de moi parce qu'ils sont très très riches déjà, ces clients-là, mais j'apprécie d'aider à développer leur business et de leur rendre service en faisant ça.
Ouais, mais Guillaume, je t'ai demandé de choisir des cartes, pas dans le cadre de seulement pro. Tu t'as réfléchi,
après,
expliqué pro et dans le vie perso, comment tu l'appliques ça
dans
justement?
Dans la vie perso, si je dois le dire.
T'es quelqu'un qui rend service.
J'aime être perçu comme quelqu'un qui rend service parce que.
Si on te demande un conseil, enfin pas un conseil, mais genre on te demande de l'aide ou quoi que ce soit, tu vas pouvoir le faire.
Parce qu'aujourd'hui, je vis bien ma vie et que je m'estime assez généreux quand il le faut sur ces aspects-là, que j'apprécie d'aller aider les gens quand je peux sur les sujets où ils ont besoin d'aide et quand ils le demandent et parce que ça me fait plaisir parce que
est-ce qu'il y a encore des gens qui t'aident toi Guillaume parce que quand t'arrives tout en haut tu vois t'as peu de personnes qui t'aident
je suis pas tout en haut et après il y a Oui, bien sûr. Alors, pro, enfin, perso, évidemment que ouais. t'as toujours besoin d'un, ouais. de quelqu'un pour t'aider. Et pro, oui, aussi, parce qu'aujourd'hui, j'ai un nouveau patron du e-commerce qui est arrivé dans la boîte où je suis.
Ouais, tu m'as raconté.
Pour structurer ça.
Ouais.
Et il va aider à structurer un truc où ça c'était pas structuré avant mmh. Et ça fait du bien et donc quelque part ils m'aident de manière indirecte mais mmh. ils m'aident là-dessus
ils sur les trucs qui te gonflent et toi tu continues à faire ce que
et
tu kiffes
c'est ça
quoi.
Il ouais, me permet clair, de faire ce qui me plaît moins quoi.
La dernière carte
alors la dernière carte c'est l'honneur de la famille c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans la vie.
Ok, derrière c'est écrit quoi?
Et c'est marqué honorer ses parents et les anciens.
Ok, alors pourquoi t'as choisi cette carte?
Alors là je l'ai choisi sous un angle très perso.
Ouais.
Parce que je pense que c'est quelque chose d'important que j'ai toujours eu du mal à exprimer moi personnellement dans ma famille justement.
En termes perso.
En termes perso, c'est-à-dire.
Exprimer ses sentiments.
Ouais. C'est
dire je t'aime à son père, ouais, à sa mère
exactement.
Ou des trucs comme ça quoi.
Exactement.
Ouais, moi j'ai une famille hyper cadrée machin, on s'est jamais dit ça. Donc
bah, ouais,
c'est culturel.
Moi,
et,
c'était un peu. Un
il y a
peu
40
cas,
puis je vais dire à ton père que tu l'aimes quand tu l'as jamais dit donc c'est.
Et puis
bon.
Même voilà c'est et donc du coup. Je suis toujours, c'est con, mais tu vois, quand je vois des films qui jouent là-dessus,
ouais,
sur la famille et
complètement.
Tout, je suis toujours admiratif de ça, ouais. en fait, en me disant, j'aurais bien aimé faire la même chose, et que ça se passe comme ça. Et aujourd'hui, les rapports se sont normalisés, bien sûr, mais voilà, c'est différent de si ça avait été le cas tout le temps.
Et dans le contexte pro, ça veut dire que quand quelqu'un vient te voir parce qu'il a un problème, je sais pas, familial justement, un décès ou quelque chose, ça te touche.
Bien
parce
sûr.
Que toi, la famille, c'est au-dessus
Bien
de
sûr.
Tout. Et donc,
et
le
même,
boulot, vas-y, arrange ça. Et,
même ouais. si c'est pas juste un problème familial, c'est un problème qu'il a dans la
Humain,
boîte.
Ouais.
Je me sens, en fait, je me sens très, très vite quand je suis dans une boîte. Alors, évidemment, chez Telios, encore plus qu'ailleurs parce que j'y ai passé beaucoup de temps et que ça m'a construit sur plein d'aspects. Mais c'était la famille. Et donc quand on attaquait Telios, on attaquait ouais. directement et j'avais cette notion de famille, de réciprocité avec les collègues qui étaient des frères et des sœurs entre guillemets.
On passait beaucoup de temps ensemble.
Et on passait beaucoup de temps ensemble. Mais aujourd'hui, même si je suis dans un grand groupe duquel je peux me sentir beaucoup moins personnellement impliqué, quand on l'attaque,
c'est quoi, 60 000 personnes dans le groupe?
300 000.
Ouais. Putain, ouais, d'accord. Ouais, ouais,
et,
ouais.
C'est quand on l'attaque. Je me sens attaqué directement parce que j'ai cette notion d'appartenance au niveau professionnel où je me dis ben non en fait et je supporte très très mal l'injustice on va dire donc
ouais.
Du coup quand on nous attaque pour des raisons qui sont pas les bonnes même si je suis pas concerné ça me touche
et
particulièrement.
Et la définition de la famille du coup elle est flexible, c'est-à-dire la famille génétique
large,
de sang
au sens large,
mais c'est
voilà.
la famille ouais. je suis dans un clan, dans un groupe, etc. et on est tu protèges toi tes gens
c'est
qui sont autour de toi,
parce
tes
que
équipes.
Ça fait des ouais. années que je suis abonné enfin que je suis supporter du PSG abonné ouais. au Parc des Princes et que tu as une notion de famille aussi ouais. dans ses supporters
ouais.
mais en plus le PSG c'est pas le dernier qui est attaqué ouais. mais tu as ce côté même
solidarité.
Si tu n'adhères pas à toutes les idées ouais. qui sont véhiculées par certains groupes etc.
ouais.
tu te dis toujours bah ouais mais en fait on attaque les
ouais.
mêmes que moi, que je vois à côté de moi
ouais.
et du coup c'est dur en fait de ne pas réagir.
Guillaume, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu voulais rajouter?
Non, que les Moscow Mules sont très bons et qu'on en est, je ne sais plus combien.
Ouais,
mais,
Gentleman 1919,
voilà,
je crois, 1919, un truc comme ça. Donc on mettra l'adresse
en
commentaire.
Bons,
ouais.
ouais,
grave. On met ton LinkedIn, on peut te contacter ou t'es anonyme? On n'a pas donné ton famille, donc ça te va.
On peut me contacter, il n'y a
okay.
pas de souci.
Bah écoute, merci beaucoup, Guillaume. Donc en note de l'émission, on mettra ton lien LinkedIn si les gens veulent te contacter. Merci mille fois encore une fois pour cette première. Je ne sais pas si ça sera publié. Je pense qu'il y a des trucs que tu as regretté de dire ou pas?
Non, je regrette
rien. Je comprends rien, donc on est bon.
Même si c'est pas toujours une bonne
c'est
idée.
La version uncensored, tu vois, c'est la
ça,
version
c'est, on est dans le director's cut carrément.
Okay, exactement. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume mille fois
merci
et à très
toi.
Bientôt. Salut, ciao.
Salut.
Ciao.